Alors, merci pour votre présence. Nous devions être sensiblement plus nombreux, mais il y a eu une affiche avec l'organisation, l'administration de BUT Services et Réseaux de Communication. Cette rencontre était bâtie notamment autour des étudiants et avec des étudiants. Et ils les ont convoqués à 14h, alors c'était bien prévu à 15h30, et ils essayent de les faire venir. C'est dommage parce que c'était l'occasion de nous rencontrer avec M. Vincent. Merci d'être là. Merci au président de l'association, il y en a plusieurs, et à vous tous, chers amis, adhérents et sympathisants. Merci aux étudiants qui ont fait l'effort d'être parmi nous. Je pense que peut-être certains de vos collègues vont nous rejoindre. Et je dois remercier la Vichy-Val-d'Allier, la communauté d'agglomération Vichy-Val-d'Allier et son président René Barbier, également Mme Jasmine Girard, qui est secrétaire générale du pôle universitaire et technologique Lardy, qui mettent toute cette salle, tous les équipements à notre disposition, et ça n'est pas rien. Et je veux y associer aussi les collaboratrices et collaborateurs de Mme Girard, en particulier Thierry Hervier, je ne sais pas s'il est là, qui est toujours fidèle pour nous permettre de démarrer et d'avoir tout le matériel à notre disposition. Alors, pour moi, c'est assez facile aujourd'hui, puisque présenter notre invité, vous le connaissez tous, mais vous le voyez habituellement derrière les tranches lucarnes. Et là, il nous a fait l'amitié de venir cet après-midi, nous consacrer son après-midi. Voilà des étudiants. Venez, 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 vous avez la place ici. Venez, ne restez pas là-bas. Venez, approchez-vous, vous avez des places. Soyez sympa. Monsieur Prudière, donc, nous faisons cette manifestation en association étroite avec le DUD Service et Réseaux de Communication, dont le responsable est M. Prudière. Et donc voilà, habituellement, nous vous voyons de l'autre côté du miroir, l'autre côté de la télévision. Je salue M. Boiron, directeur du CANILAM. Et nous avions été avec un certain nombre de collègues membres du club audiovisuel au forum de France Télévisions à Clermont-Ferrand, fort intéressant, le 19 janvier. Et à cette occasion, on avait rencontré M. Vincent. Et on lui a demandé s'il voulait bien dans le cadre du club audiovisuel, puisque nous consacrons cette année 2007 essentiellement à la télévision, s'il voulait bien venir à Vichy dans le cadre du club audiovisuel pour nous parler, évidemment, de France 3 et des informations télévisées régionales et tout ce qui va autour. Et M. Vincent, je vous remercie parce que vous avez donné tout de suite un accord de principe et vous êtes là cet après-midi, donc vous avez bien concrétisé cet accord de principe. Et je vous en remercie beaucoup. Alors, je ne vais pas être plus bavard parce que ce n'est pas moi qui vous ai écouté. Et M. Vincent, Jean-Paul Vincent, n'a pas souhaité faire véritablement une conférence, mais j'ai préféré que l'on appelle cela rencontre-débat autour du thème des informations régionales télévisées. Nous présenter, bien entendu, l'organisation France-Auvergne, la façon dont se fait le journal, dont il est ensuite l'un des principaux animateurs. Et puis tout ce qu'il fait autour, en particulier tous les 15 jours, il reçoit des personnalités politiques notamment pour des débats, des cœurs, des interviews. Voilà. Alors, je lui laisse la parole et je donnerai quelques autres précisions ensuite à la fin. Et n'hésitez pas ensuite à poser toutes les questions, puisqu'il est venu pour qu'on parle avec lui. Merci. Merci. Bon, merci de m'avoir invité, merci de m'accueillir, parce que si vous, vous voyez de temps en temps, moi je ne vous vois jamais, je suis d'autant plus ravi d'être là, parce que ça me donne l'occasion de voir enfin des gens qui regardent, parce que quand je suis au studio, moi j'ai juste deux, trois caméras qui sont fixées sur moi, et avec la lumière, je vois rien. Donc merci d'être aussi nombreux, de vous intéresser aussi nombreux aux informations télévisées régionales. Monsieur Deguy vient de vous le dire, je ne vais pas vous faire une conférence, parce que je suis très mauvais à ce genre de choses. Je laisserai plutôt poser vos questions. Ça permettra déjà de répondre à vos questions et de ne pas répondre à des questions que vous ne vous posez pas. Je voudrais quand même, avant de commencer, dire un mot de France 3 et dire un mot du travail quotidien à France 3, comment ça se passe. Donc, vous savez que France 3, c'est une des 5 chaînes du groupe France Télévisions, service public, autrefois c'est télévision d'État. On le dit moins, même si la réalité la même, puisque c'est l'actionnaire unique, et principal unique de la télévision. Les 5 chaînes sont France 2, France 3, France 4, France 5, France O. France O étant l'ancienne télévision, vous savez, des hommes-tomes. Arte n'en fait pas partie. Arte est service public, mais un statut tout à fait à part.
regarder la chaîne régionale, celle qui permet de recevoir vos informations régionales. Alors, sur France 3, il y a en France 13 grands métropolitaines, hein, on ne parle que de ça, sur le reste c'est Domtop, c'est France O, il y a 13 régions, découpage administratif, 13 grandes régions. Nous appartenons, nous, à la région Rhône-Alpes-Auvergne. C'est une des 13. Donc, cette région Rhône-Alpes-Auvergne, on va s'intéresser à elle, se divise en trois sous-régions, ça veut dire, il y a Rhône, il y a Alpes, il y a Auvergne, c'est-à-dire qu'il y a trois bureaux régionaux d'information, c'est comme ça qu'on les appelle, on appelle ça des BRI chez nous, des bureaux régionaux d'information. Vous avez Lyon, vous avez Grenoble, vous avez Clermont. L'ensemble de la région, c'est 12 départements, Savoie, Haute-Savoie, l'Ain, le Rhône, la Loire, l'Isère, la Drôme, le Puy-de-Dôme, le Cantal, l'Allier, la Haute-Loire, le Mont-le-Deuxième, l'Ardèche. Voilà, 12 départements. 3 BRI donc, avec 3 décrochages spécifiques pour les journaux régionaux. À midi, c'est à peu près commun, le soir, chacun décroche. Au sein de ces BRI, ces bureaux régionaux d'information, vous avez souvent une autre rédaction, c'est une rédaction régionale qui couvre l'ensemble des départements de sa région, d'où les 4 régions Auvergne, et vous avez ce qu'on appelle une locale. À Clermont, vous avez Clermontois, qui est une locale qui ne couvre que l'agglomération clermontoise. Vous avez une locale à Clermont, vous en avez une à Saint-Étienne, vous en avez une à Lyon, vous en avez une à Grenoble. Alors vous avez des locales intégrées, comme celle de Clermont, Lyon, Grenoble, qui appartiennent, qui sont dans les mêmes locaux que la rédaction régionale. Vous avez une locale excentrée, qui est celle de Saint-Étienne, mais qui est sous l'autorité du rédacteur en chef de Lyon. À Clermont, il se trouve que tout le monde reçoit Clermont Soir, parce que c'est des problèmes d'implantation de l'émetteur. Il est au sommet du Puy-de-Dôme, donc ça couvre l'ensemble de la région. On n'est pas arrivé à... mais on aurait pu mettre un émetteur ne couvrant que l'agglomération clermontoise. C'est ce qui se passe à Lyon, c'est ce qui se passe à Grenoble, c'est ce qui se passe à Saint-Étienne. Là, le fait que l'émetteur soit le sommet du Puy-de-Dôme, on arrose absolument toute la région et même une partie de la Corrèze, de la Creuse, de la Nièvre, etc., etc. C'est la même couverture que le régional en fait. Mais l'actualité est centrée uniquement sur les 21 communes de l'agglomération clermontoise. Ce qui permet de décharger un petit peu le journal régional et ce qui permet au journal régional d'aller. Couvrir un peu mieux l'actualité du reste des autres départements. Donc, dans chacune de ces stations régionales, vous avez donc un BRI. Le BRI, lui, ne s'occupe que de l'information, de la rédaction, c'est le rédactionnel. À côté, vous avez ce qu'on appelle un CAT, qui est un centre d'actualité télévisée qui ne s'occupe que de la technique, de la gestion technique, de la diffusion, du reportage, etc. Donc à Clermont-Ferrand, BRI et CAT, c'est-à-dire rédaction et technique, ça représente à peu près 80 à 85 personnes. Donc 85 à 85 personnes, ce sont les journalistes, ce sont les techniciens, certains administratifs, certains entretiens, etc. Vous avez sur le BRI, sur l'information, vous avez à peu près 42-43 personnes. Ça fluctue un peu. Alors dans les 42-43 personnes, vous avez le rédacteur en chef. Je compte la locale avec, hein, parce qu'elle est intégrée à Clermont, on va faire comme si elle faisait partie. Le rédacteur en chef, vous avez 1, 2, 3, 4 adjoints, 4 rédacteurs en chef adjoints. Vous avez à peu près 32-33 journalistes. Vous avez une bibliothécaire, ça me reviendra. Vous avez 2 secrétaires, vous avez 2 scripts, 3 scripts. Les scripts sont des personnages très importants dans les journaux télévisés. Vous avez une documentaliste pour l'algo que je cherchais. Tout ça géré par un rédacteur en chef. De l'autre côté, CAT, avec une autre direction technique, celle-là, avec plusieurs responsables. On aime bien à France 3 les armées mexicaines, donc il y en a beaucoup, avec l'état de galon. Et là, vous avez tout ce qui est technicien vidéo, tous les preneurs de son, tous les monteurs, le personnel d'entretien, de maintenance du matériel, entretien des locaux, l'accueil, le standard, etc. C'est géré par ce qu'on appelle le CAT, le Centre de la qualité de l'unité de la partie technique. Voilà. Le tout étant de ça, alors là, il y a à peu près, il y a plus de 45 personnes sur le premier, il y en a à peu près autant de personnes hein, sur la partie technique. Le tout étant de faire travailler tout le monde en même temps. Normalement, c'est l'actualité qui prime, c'est-à-dire que la technique doit se mettre au service de l'actualité. Or, de plus en plus, on assiste à l'inverse et les journalistes qui doivent souvent en passer par les fourches codines de la technique. On aura peut-être l'occasion d'en parler tout à l'heure parce que ça pose un véritable problème. Donc vous avez 80 personnes, il est bien évident que 80 personnes ne sont pas au planning tous les jours. Il y a des gens en repos, des gens en STP, des gens en maladie, des gens en congé, des gens en congé maternité, etc., etc. Donc comment, à partir de là, se passe le travail? Donc une journée à France 3. Le matin, tout commence à 9h par une conférence de rédaction qui concerne la partie BRI, rédaction. C'est-à-dire les techniciens sont invités, ils viennent pratiquement jamais. Mais ils sont invités, ils peuvent venir quand ils veulent. Là, on passe en revue absolument l'actualité du jour. Tout ce qu'on a reçu, nous, de communiquer, tout ce qui a pu tomber dans la nuit comme dépêche, tout ce qu'on a pu recevoir comme mail, tout ce qu'on a pu recevoir comme fax, tout ce qu'on a pu entendre dans la radio le matin en se levant, parce que la première chose qu'on fait le matin en se levant, c'est d'écouter la radio, d'écouter les autres. Donc, à partir de là, on fait un tri. On essaie de voir si c'est important, pas important, on fait un premier tri. Ça dure à peu près une petite heure. À partir du moment où le tri est fait, le reportage choisi, chaque reportage choisi est confié à une équipe. Alors une équipe, c'est ça peut prendre plusieurs formes. Il y a toujours un journaliste, forcément, rédacteur. Un journaliste, c'est quelqu'un qui a une carte de presse. Il y a journaliste caméraman, qu'on appelle nous un journaliste reporter d'image, un JRI, parce que les journalistes reporters d'image sont aussi des journalistes qui ont une carte de presse. Puisqu'ils écrivent aussi l'actualité autrement, eux c'est avec des images, le rédacteur c'est avec un stylo. Mais ils ont une carte de presse. Donc en général, vous avez obligatoirement ce binôme-là pour partir, étant donné que très souvent le JRI a une formation minimum qui lui permet aussi de faire du son. Et en général, les caméras aujourd'hui sont suffisamment perfectionnées pour que dans l'actualité, tout au moins, on n'ait pas besoin de faire un éclairage très sophistiqué. Aujourd'hui, on travaille en numérique avec des caméras hypersensibles, il n'y a pas trop de soucis. Maintenant, il peut y avoir à ces deux-là un troisième qui se rajoute, qui peut être soit un preneur de son, ce qu'on appelle un OPS, un opérateur de prise de son. C'est en général qu'il y a soit une prise de son musicale à faire, qui est un peu plus sophistiquée, soit il faut partir faire un meeting politique, parce que là, on ne sait pas trop comment les choses vont se passer. Donc vous avez toujours un preneur de son qui suit le journaliste et les caméramans avec une pêche. On ne sait jamais ce qui va sortir, on ne sait jamais ce qui va se dire, donc il faut être en permanence à l'affût de tout. Et là, on a besoin d'avoir soit un preneur de son, soit ce qu'on appelle un CR, un technicien de reportage. Mais en général, non. On le demande, mais c'est pas obligatoire, non, on le demande. Cela dit, il y a des journalistes qui pourraient partir tout seuls parce qu'ils ont la double compétence, ils sont à la fois rédacteurs et à la fois caméraman. Mais à France 3, on a exigé et obtenu et signé avec la direction que les équipes soient au minimum à deux. Qu'on ne parte jamais, jamais, qu'on ne laisse jamais partir un journaliste biqualifié, c'est comme ça qu'on les appelle, c'est-à-dire capable de faire de la rédaction et d'image tout seul. Pour des raisons d'avoir emploi, parce qu'il n'y a pas de raison qu'on fasse faire tout au même et qu'on supprime des emplois. Et ensuite, pour des raisons de facilité aussi, quand vous êtes dans une manifestation où les choses vont très vite, il faut toujours qu'il y en ait un qui filme et l'autre qui parte à la pêche à l'info pour savoir qui est qui fait quoi, ce qui se passe, ce qui se dit, où ils vont aller, de quel côté ça va partir, on ne sait pas. S'il n'y en a qu'un qui le fait, c'est ingérable. Ingérable. Voilà. Donc, ces équipes-là, qu'elle soit à deux ou qu'elle soit à trois, partent en reportage, c'est-à-dire commencent à prendre des contacts, voir qui il faut interviewer, prennent des rendez-vous, et puis partent sur le terrain, et puis reviennent dans l'après-midi, en sachant qu'entre le moment où ils partent et le moment où ils reviennent, les choses peuvent évoluer. D'abord, on peut s'apercevoir que le sujet sur le papier qui semblait intéressant, finalement, c'est pas si passionnant que ça. Donc on peut changer en cours de route. On va faire autre chose. Soit le sujet qu'on avait imaginé ne peut pas se faire parce que la personne qui s'en occupe n'est pas là ce jour-là, parce qu'elle ne souhaite pas parler, parce que c'est pas de raison, enfin, pratique. Donc, on peut faire autre chose. Soit on s'aperçoit que le sujet est beaucoup plus intéressant que ce qu'on pensait. Donc, on va peut-être soit allonger le temps de tournage, et plutôt que de cuisiner le soir, le temps ramener le lendemain, par exemple, laisser un peu plus de temps, ça dépend. Ça varie en permanence entre le moment où le conducteur du matin, c'est un conducteur qui ressemble à ça. C'est les mêmes dans toutes les stations de France 3. Voilà, là vous avez un certain nombre de sujets qui sont listés. C'est vraiment dans l'absolu, ça s'est fait à 10h18 le matin. Donc, c'est le premier jet. Ça, il va y en avoir au moins une dizaine dans la journée, ça va évoluer au fur et à mesure. Parce que les gens qui partent en reportage appellent sans arrêt pour dire exactement où ils en sont, ils passent, si c'est intéressant, si c'est pas intéressant. Si l'angle sous lequel on avait choisi de traiter le sujet le matin est le bon ou pas le bon, parce que ça aussi on peut le changer, en s'apercevant sur le terrain que c'était pas le bon, qu'il y a plus intéressant. Donc ça évolue toute la journée. Ensuite, les équipes vont rentrer dans l'après-midi les unes après les autres, puis vont monter leur sujet. C'est-à-dire faire des choix rédactionnels, des images qu'on regarde, comment on construit le sujet, qu'est-ce qu'on raconte, qui on fait parler, qu'est-ce qu'on lui fait dire, qu'est-ce qu'on garde pour soi, etc. Non, pour soi, pour dire soi-même, hein, dans son commentaire, il ne s'agit pas de ne pas dire. Et dans l'après-midi, à 3h30, il y a une autre conférence de rédaction qui, cette fois, ne réunit que le responsable d'édition, en général, c'est le rédacteur en chef, c'est un de ses adjoints, les scripts, les deux scripts, et le journaliste qui présente. Alors là, on fait un tri définitif. Et là, par exemple, il y a des choses qui vont changer, ou il y a des choses qu'on va décider de garder pour le lendemain, ou le surlendemain, parce que c'est pas urgent, parce qu'on se rend compte, par exemple, je vois que là, si on passe le journal tel qu'il est là, tout ce qui est prévu le matin à 10h18, il reste 1 minute 49 de plateau. C'est-à-dire que le journaliste, le présentateur, n'a qu'une minute 49. C'est trop court, il lui faut au moins 5 minutes tous les jours, entre 5 et 5h30. Donc, il y a des sujets qu'il faut faire sauter. Alors, qu'est-ce qu'on fait sauter? Alors, il y a des sujets qu'on ne peut pas repousser parce que c'est l'actualité du jour et on ne va pas les repousser au lendemain. Et puis, il y a des sujets qu'on garde. Une fois qu'on a décidé ce qu'on gardait, ce qu'on a enlevé, il faut faire un ordre. Par quoi on commence, par quoi on finit, comment on passe d'un sujet à l'autre. Voilà, c'est une cuisine dans laquelle je ne me lancerai pas parce que c'est très difficile à théoriser. C'est vraiment très empirique. C'est au jour le jour, au feeling, ça dépend des gens, ça dépend des moments, ça dépend des... Bon, il y a des sujets qui s'imposent, il y a des sujets où on pourrait les mettre au milieu ou à la fin, je ne sais pas. Pour construire un journal de façon aussi à rythmer un journal, faire attention de... Quand on sent qu'il y a des sujets qui risquent de faire que l'attention du téléspectateur se relâche, il faut vite mettre un sujet qui la fasse rebondir un petit peu, en faisant attention de ne pas tout mélanger non plus. Qu'on ne peut pas se faire suivre dans un journal, ça serait pas très, des fois pas très heureux. Donc, à partir de là, on fait un conducteur définitif qui ressemble à celui-là, mais il y a moins de sujets et ils sont dans l'ordre. Et le journaliste présentateur, lui, va à son bureau et commence à écrire tous ses lancements de reportage en restant en relation avec tous les journalistes qui sont partis sur le terrain, qui sont rentrés. Qui lui disent ce qu'ils ont fait, comment ils l'ont conçu, comment ils l'ont organisé leur reportage. C'est avec eux qu'ils construisent ces lancements, mais c'est le journaliste de plateau qui les écrit. C'est lui qui écrit ces textes, on ne les écrit pas. Pendant enfin, d'abord, on les écrit, nous on les écrit. C'est pas tout à fait la même chose. Et vous avez pendant ce temps-là deux personnages importants dans cette histoire, qui sont le chef d'édition, qui est en général un adjoint. En tout cas, Clermont, le poste existe d'ailleurs, il existera peut-être un jour à Clermont. Ici, c'est un adjoint qui fait fonction de chef d'édition. Lui, il est chargé de faire en sorte que la fabrication, de toujours maîtriser la fabrication du journal. C'est un journaliste, hein. Il va toujours savoir où en est le montage de quel sujet. Vous avez en général entre 7 et 10 sujets par journal. Où en est le montage? Est-ce qu'on l'aura à temps? Quels sont les problèmes qui se posent? S'il y a un problème technique, il va voir automatiquement le responsable technique de l'édition pour le résoudre, etc. Et vous avez l'autre personnage important, c'est le script ou la script, parce que c'est le chef de garde du journal. C'est vraiment le ou la script qui, à tout moment, tape ce genre de conducteur, à tout moment, fait les calculs de temps qui restent pour les uns, pour les autres, et qui, au moment de la diffusion du journal, et à côté du réalisateur et donne tous les top départs, le départ des sujets, le départ du journaliste de plateau, etc. Et qui compte en permanence le temps qui reste. Puisque quand on est présenté au journal, je sais que si je commence un journal avec 5 minutes 19, je n'ai pas le droit de faire plus. Puisque si on regarde un conducteur, par exemple, le journal de ce soir, il va commencer à 19h et il va finir à 19h25 et 45 secondes. C'est pas 46, c'est 45. Et on raccroche sur Paris après. Donc on ne peut pas. Pas une seconde de marge. Et c'est le site ou l'article qui est chargé vraiment de veiller à ça en permanence, de lancer les sujets, de lancer ce qu'on appelle les synthés, c'est-à-dire le titrage des gens en bas, de lancer. C'est une tour de contrôle qui donne des ordres, il y a un micro, il y a des boîtes de micro, un petit casque pour parler au présentateur de plateau qui est derrière le guet, et puis un autre micro qui lui permet de parler à tous les techniciens qui sont présents sur un plateau ou dans la régie. Parce que pour présenter un journal, vous voyez une personne. Si on regarde un journal comme celui de ce soir, bon, il n'y aura pas tous ces sujets, mais je vais par exemple regarder les sujets de hier, je vais vous dire à peu près combien il y a de personnes qui travaillent sur un journal par jour. Là, hier, ce sujet est passé, ça faisait déjà 3 personnes. Celui-là est passé, ça fait 7. Celui-là est passé, ça fait 10. Celui-là, ça fait 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17. Rien qu'en équipe, vous êtes 17, 18, 19. Ça n'est pas passé. 20, 21. Vous avez 25 personnes, rien qu'en équipe de tournage. Et montage. Vous avez 25 personnes pour travailler. Ajoutez à ça derrière 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, une dizaine de personnes qui sont soit en régie, soit en plateau, et au moins 35 personnes qui ont travaillé pour le journal. Et au moment de la diffusion du journal, vous avez toujours à peu près une quinzaine de personnes qui travaillent, qui sont là, qui sont derrière. Hein, que vous ne voyez jamais. Mais qui sont là et sans qui le journal n'a absolument pas lieu. Il suffit qu'il y en ait un, en plus des. Bon, c'est des problèmes syndicaux à France 3, mais chaque métier est tellement compartimenté qu'un seul individu peut bloquer la machine. S'il y en a un qui est en grève, il n'y a pas de journée. Voilà. C'est pour ça que de temps en temps, il y a des grèves. Et que si le présentateur est en grève, il n'y a pas de journée. Si le caméraman de plateau est en grève, il n'y a pas de journée. Si le preneur de son est en grève, il n'y a pas de journée. Même si tout le monde, tout le reste de l'équipe travaille. Donc voilà à peu près comment ça se passe pour un journal du soir. Je passe sur une midi, c'est à peu près la même chose, sauf qu'on le fait en collaboration avec Lyon. Et ça se passe comme ça absolument dans toutes les stations régionales de France 3. Voilà. C'est-à-dire qu'un journaliste de France 3, finalement, mis à part les méthodes de travail qui ne sont pas forcément les mêmes avec les rédactions nationales, sur le fond, c'est le même métier. Hein, c'est les mêmes devoirs, la même loi, la même éthique, la même déontologie qui nous régit absolument partout. La différence étant que, en tout cas c'était français, ça n'existe pas ailleurs, que évidemment les journalistes nationaux ont toujours une aura beaucoup plus importante que les journalistes régionaux, ce qui n'existe pas aux États-Unis par exemple, où un journaliste local a autant d'importance et autant de pouvoir, entre guillemets, c'est pas comme ce mot, qu'un journaliste de New York Times, par exemple, en France, d'un côté un peu jacobin, même dans les people, comme on dit. Donc, voilà à peu près, grosso modo, à quoi ça ressemble, c'est très schématique. Il est évident que vous passeriez une journée à France 3, déjà vous auriez une autre vision, et encore, elle serait même très incomplète. Même moi, au bout de 20 ans de France 3, je suis. Incapable de théoriser, de dire pourquoi on fait les choses comme ça, pourquoi on les fait à tel moment, pourquoi on les fait dans ce sens-là et pas dans l'autre, etc. C'est devenu tellement automatique que, voilà. Bon, de temps en temps, on se pose quand même des questions, on se pose beaucoup de questions, c'est pas forcément les choses n'importe comment. Mais c'est très difficile à théoriser, en fait, c'est pas de technique comme ça, malgré ce qu'on dit de toutes les écoles de journalisme. Il y a quand même une part qui échappe à la technique. Au savoir-faire, la réactivité, comme ça, des moments qui échappent à toute règle écrite. Donc voilà ce que je peux vous dire sur France 3 et sur le fonctionnement de France 3. C'est très
vécu de l'intérieur, c'est le fruit d'expérience quotidienne et de, comme il a dit, depuis 20 ans, de cette expérience. C'est pas un métier qu'on peut faire avec routine. Parce que tous les jours, il y a quelque chose qui touche à vous, on a cassé la routine, de toute façon. Il y a des hypothèses qui sont techniques, une actualité qu'on ne maîtrise pas. Voilà, donc il faut s'adapter en permanence, être à l'affût. Et c'est pour ça qu'on ne peut pas se. Non, on peut pas s'en lever. Si vraiment on est fort, on ne peut pas s'en lasser, quoi. Tant mieux, on ne peut pas s'en
lasser. Tant mieux pour nous, on ne peut pas s'en lasser. Je pense que déjà, après ce que vient de nous dire Jean-Paul Vincent, aucun de nous ne regardera le journal télévisé régional de la même façon, sachant tout ce qui s'y passe et toute la façon dont ça se construit. Mais sans doute, avec vous et les uns les autres, en particulier les étudiants de l'ETRC, je vous salue pour ceux qui ont bien voulu revenir malgré le malentendu sur les horaires, je vous en remercie. Avez-vous sans doute les uns les autres nombre de questions à poser? Oui, alors.
Attends, on va passer le micro.
On va passer le micro parce que déjà moi je suis un peu sourd, on ne passe pas aux enfants.
Quand le journal télévisé national a besoin d'informations, du reportage sur la région, est-ce qu'il se sert des programmes de la télévision régionale ou est-ce qu'il envoie par exemple ses propres reporters parce que, je ne sais pas, il peut y avoir des sujets qui intéressent toute la nation, même si ça se passe en Auvergne.
Les deux sont possibles. Soit on envoie une équipe de Paris, parce qu'ils ont décidé d'envoyer une équipe de Paris, en sachant qu'à Paris, ça fonctionne un peu différemment. À Paris, vous avez des équipes de journalistes qui travaillent, les uns dans la culture, les autres dans la politique, les autres dans l'économie, les autres sont très spécialisés, ce qui n'est pas le cas en région. Nous, on n'a pas de spécialisation, même si le grade de journaliste spécialisé existe. C'est un grade abstrait qui existe dans toute la profession. Vous avez journaliste, rédacteur, journaliste spécialisé, grand reporter, c'est les trois grades. Eux, ils sont vraiment spécialisés dans certains domaines. Eux, ils savent que tel jour, sauf actualité brûlante qui arrive et imprévue qui arrive là tout de suite, auquel cas on envoie quelqu'un sans que ce soit prévu ou planifié, il y a toujours des équipes en attente. Mais en général, c'est des sujets sont prévisibles un peu à l'avance, donc les gens ont le temps de les préparer, ils ont le temps de prendre des contacts, de partir les tourner, etc. Souvent, ils peuvent avoir plusieurs jours pour faire un reportage. En région, c'est pas la même chose. Nous, on découvre le sujet de matin, quoi qu'il soit fait le soir, dans les sujets sur lesquels on n'est peut-être pas du tout spécialisé. Même si en région, il y a une spécialisation de fait qui se crée. On n'ira pas me demander à moi de commencer un match de rugby. Forcément pas. Ça serait la pire des choses. Alors le 1er avril, on sait. Et c'est tout. Oui. Donc, ils envoient parfois leurs propres équipes, ce qui des fois nous met un peu en rogne, parce qu'on se dit que nous on fait le sujet aussi et qu'ils pourraient utiliser le nôtre, et que souvent, c'est une façon de nous dire que ce n'est peut-être pas assez bon. Enfin, c'est parce que pas ce que ça veut dire, bien sûr, mais on ne prend pas comme ça parce qu'on est des fois un peu mal léché, et on a un peu des égos surdimensionnés les uns et les autres. Forcément, on le prend mal. Mais des fois, ils reprennent notre sujet et ils le remontent différemment et ils le font commenter par un journaliste de chez eux. On retrouve, parce qu'il le raccourcit, s'il le reprend autrement, parce que je ne sais pas pourquoi. Et des fois, quand ils sont en panne d'actualité, ce qui arrive de temps en temps à certaines vacances, à Noël, entre Noël et Premier Glan, et bien ils prennent le sujet tel quel, tel qu'il est tombé, parce qu'ils ont fait vite et qu'ils l'ont pris immédiatement dans la foulée du journal. Parce qu'il faut savoir qu'on a un système d'échange techniquement, qu'on appelle un nodal chez nous, qui est un local technique où on est en relation permanente avec toutes les stations de France 3 et où on peut à tout moment récupérer les sujets, les images immédiatement. On téléphone, on demande et dans les 10 minutes en général, voilà, on peut récupérer tout ce qu'on veut. Et là, ça va encore aller beaucoup plus vite parce que là, maintenant, étant donné qu'on tourne déjà avec le numérique, avec des cassettes, là, on va tourner avec des disques numériques. Les images sont immédiatement rentrées sur un serveur central quand les journalistes reviennent. Tous les monteurs de la station ont accès aux images de ce serveur central, mais toutes les chaînes de France 3 ont aussi accès à notre serveur à nous, comme nous on a accès à tous les serveurs d'images de toutes les stations de France 3. Il suffit de savoir que cette image existe peut-être quelque part pour qu'on aille la chercher. qui peut poser un problème des fois, parce qu'il ne faut pas les utiliser à contre-sens, ces images. Nous, on les a peut-être faites dans un sens particulier, et comme il n'y a pas de commentaires, c'est des images brutes comme ça qu'on trouve sur un serveur central. Quelqu'un d'avoir un avion qui passe, c'est-à-dire, tiens, je peux voir des images d'avion, je prends un avion, et puis je dis un autre commentaire que celui qui correspond à l'avion filmé. Il peut parfois poser quelques problèmes, ce qui va poser à l'avenir quelques problèmes, la technologie, au niveau de la fiabilité de l'information. Donc, ils font les trois. Où ils descendent, où ils prennent, où ils reprennent en l'écrivant autrement, en fait, ça. Il y a les trois.
Le CSA.
Le CSA. En ce moment, oui, puisque en période électorale, vous savez qu'il y a la gagicité puis l'égalité dans les temps de parole, et que depuis hier, on est 22 ans entière, depuis 20, on est rentré dans une période de temps de campagne électorale officielle, donc c'est l'égalité des temps de parole pour les 12 candidats. Mais c'était déjà le cas avant pour les cités. On a régulièrement le compte-rendu du CSA qui nous dit attention, et ça c'est station par station, hein. C'est pas simplement général à France 3, à France 3 Vert, on le reçoit, en général tous les 15 jours, mais ça va aller de plus en plus, la fréquence va se rapprocher de plus en plus maintenant. On reçoit un avis du CSA en disant attention, vous êtes en retard de tant de minutes sur tel parti politique. Donc attention, compensez. Donc là on jongle un peu beaucoup. Mmh. Vous voyez, donc au fur et à mesure, on adapte pour que le 21 ou le 20 au soir, quand la campagne est terminée, ce sera le 20 au soir, à minuit, on ait un temps d'antenne absolument égal pour les 12 candidats, quel qu'il soit. Et ça, c'est le CSA qui nous. Nous, on fait notre calcul un peu au jour le jour, hein, parce qu'on va pas se laisser surprendre au bout de 15 jours par un avis du CSA. Si au bout de 15 jours, le CSA vient nous dire, ben, M. Sarkozy a 15 minutes de retard, on est mal, quoi. Donc, on va rattraper 15 minutes, c'est difficile. D'autant plus que le calcul des temps de parole, c'est très bizarre. Hein. C'est uniquement le moment où le candidat ou le représentant du candidat parle. La question ne compte pas. Le reportage à l'intérieur, si je reçois par exemple quelqu'un d'un parti politique pendant un quart d'heure, 20 minutes, mais qu'à l'intérieur je passe 2-3 sujets où on interviewe d'autres partis politique que le tien, forcément c'est pas dans son temps d'antenne, hein. Je ne prends pas la globalité du temps d'émission pour lui, je ne prendrai que le temps où lui a réellement parlé. Par contre, si je prends quelqu'un de droite, par exemple, comme invité, je passe un sujet sur un candidat de gauche, le temps que le candidat de gauche parlera dans le sujet, c'est aussi décompté pour lui. Hein, tout est compté complètement.
Il est fait
antenne par antenne, journal par journal. Ah oui, c'est journal par journal. C'est journal par journal. Non, c'est journal par journal. Il n'y a pas de péréquation. Non, c'est journal par journal. Nous, on a notre temps d'antenne à respecter. Lyon a le sien, Grenoble a le sien, Lille a le sien, Paris a le sien.
Oui, justement, tant qu'il y a un chronomètre pour juger impartiellement du temps, je conçois bien l'objectivité de la chose. En contrepartie, le choix des sujets qui sont traités, à qui impartit-il?
C'est nous qui choisissons.
C'est
la rédaction qui choisit. Alors là, on va rentrer dans quelque chose d'un peu compliqué. Donc là, il n'y a pas de règle. Mm-hmm. Il n'y a pas de règle écrite. Mm-hmm. Ça se fait un peu.
Souvent, la déontologie que vous avez évoquée.
Ça se fait un peu aussi. Alors par exemple, je vais prendre le journal de ce soir. Ça, c'est le conducteur de ce matin. Alors, je vous donne le. C'est pas du tout le journal que vous allez voir. C'est des sujets que vous ne retrouverez pas ce soir. Parce que je vois qu'il n'y a qu'une minute 45 pour le présentateur. Il va falloir supprimer deux ou trois choses. Et puis, il y a peut-être des sujets qui n'ont pas marché. Hein, voilà. Donc il était prévu un sujet assez à Clermont sur un adolescent bastonné en prison avec une condamnation. Ensuite il y avait des réactions politiques sur les cultures OGM autorisées à Malintra dans le Puy-de-Dôme.
Oui, c'est possible.
Il y a la première éolienne dans l'Allier à Sauzé, normalement c'est ce soir, avec des réactions que ça suscite. sujet sur l'entreprise qui s'appelle Internat et qui fait de la fourniture pour Labo, qui a la particularité d'être implantée à Bourgeoux, c'est-à-dire en fin de compte à Châtenay-Cantalienne, ce qui est pas banal. Il y a un invité, normalement c'est prévu, c'est le patron des statistiques pour parler des prévisions d'embauche. Il y a un off, c'est-à-dire une petite information de 20 à 25 secondes, où c'est le journaliste en plateau qui parle sur les images, sur la manifestation pour l'hôpital du soir. Vous avez un autre off sur une inauguration de l'hôpital de Brioude qui a été perturbée par une autre manifestation. Il y a un sujet sur l'hôpital de Brioude lui-même. Ensuite, vous avez un sujet sur, je ne sais pas ce que c'est, parce que moi j'étais pas là ce matin, au cours du développement durable, c'est un sujet fait en retour. Le festival du polar de Cussé, qui est prévu aussi. L'Interpol de volet féminin du soir, et puis la rencontre en Besançon, clairement en basket. Bon. Il y a des choses qui vont sauter, à mon avis. Maintenant, si vous regardez dans l'actualité, aujourd'hui, c'est vrai que l'actualité, c'est pas bon. La réaction aux OGS, c'est l'actualité, c'est tombé avant-hier, on a fait un premier sujet hier, c'est encore l'actualité. Le basket, de Besançon, clairement, c'est hier soir, vous ne pouvez pas l'échapper. C'est-à-dire que si le sujet est fait par nous ou par Besançon, peu importe où, c'est Besançon qui l'a fait. En déplacement, c'est guerre. Si on ne passe pas aujourd'hui, on ne passera plus. On ne passera pas demain. Ça n'a plus de sens. L'inauguration de l'hôpital de Brioude et les manifestations, c'est aujourd'hui. On ne passera plus demain. La manifestation sur l'hôpital de l'histoire, c'est aujourd'hui. On ne passera pas demain. Voilà. Le reste, bon, par contre, la fourniture pour la roue, l'entreprise de Bourgeoux, pas forcément l'actualité aujourd'hui, ça peut se décaler. À moins qu'il y ait une actualité précise, mais je ne pense pas, ça peut se décaler d'une journée ou deux. La première éolienne de l'Allier a sauvé, elle reste là, elle ne va pas partir, on peut passer le sujet demain, il n'y a pas de souci, mais il y a déjà 8 jours qu'on le traîne celui-là. On l'a fait en début de semaine, il y a 8 jours qu'on dit qu'on va le prendre, donc on ne va pas tarder quand même non plus, parce que sinon, ça, dans la montagne, elle est passée dedans. Et ça serait embêtant. Donc, vous avez des sujets que l'actualité impose. Si un ministre vient en déplacement, forcément, ça s'impose. Si vous avez une manifestation, d'enseignants, on va la faire. Sauf que vraiment, si vous avez 10 personnes devant le rectorat, quelqu'un, on fera son appel à l'offre, on fera la zone, on fera pas le sujet complet. Par contre, si vous avez 5000 personnes dans les rues, on ne peut pas le faire. Ça serait, franchement, ce serait pas notre boulot si on ne fait pas ça. Si vous avez un accident grave, forcément, vous le faites. Et tout ce genre de choses que l'actualité impose. Un meeting politique, surtout en cette saison, on ne peut pas ne pas le faire. Forcément qu'on va le faire. Si on regarde les sujets qui ont été faits hier soir, vous avez quoi? Vous avez le procès de l'employé de la Poste qui a eu, je ne sais combien de CDD monté de là dans le bulldozer. C'était hier, on a fait hier. Sinon, c'était là, c'était notre avant hier, diffusé hier. Donc, voilà. Vous avez l'ouverture de Lucania hier, c'est la deuxième génération de Lucania, ce ne sera sûrement pas la dernière, et vous ne pouvez pas le faire. Vous voyez, il y a des sujets qui s'imposent. Alors après, alors vous avez des jours où, finalement, vous avez 7 ou 8 sujets qui s'imposent, vous avez tout le journal. Vous avez plus de choix possible. Ça s'impose. Il y a des jours, et en particulier le cas, surtout pendant les vacances, ça arrive, hein, ça arrive aussi à la rédaction nationale, vous n'avez rien qui s'impose. Il n'y a pas de truc, il n'y a pas de lien, rien. On peut faire tout ce qu'on veut, mais ces gens-là, on n'aime pas du tout. Enfin, on aime et on n'aime pas. On n'aime pas parce qu'on n'a pas de début de journal, pour accrocher le journal, il faut quand même un gros sujet de début. Bon, le sujet de face, c'est-à-dire un sujet un peu plus léger, un sujet un peu plus fun, un peu plus culture, un peu plus nature, un peu plus loisir. Des fois, on n'a même pas ça. Alors, on n'aime pas, on ne sait pas du tout comment construire le journal, c'est vraiment des jours où on peut construire le journal dans tous les sens. On se dit qu'il n'y a qu'à jeter les sujets en l'air, on verra bien comment ils tombent. On ne fait pas, enfin, à la justice, ça n'a rien à ça. Mais c'est aussi quelque chose qu'on aime bien parce que c'est là, ces jours-là, où ce manque d'actualité permet à chaque journaliste de proposer des sujets qui lui tiennent à cœur, qui lui plaisent bien, qui ne sont pas forcément des sujets d'actualité. Vous voyez ce que je veux dire? Faire un bouquin, faire, une balade en raft, je ne sais où, avec telle association qui fait, vous voyez, tout. C'est pour ça que j'ai dit tout à l'heure à quelqu'un qui me proposait un sujet pour le mois de juin, vous pouvez me dire si on a une chance ou pas. J'ai dit rien n'est impossible, ça les a fait sourire, les deux personnes. Mais rien n'est impossible, parce que si vous nous envoyez un communiqué sur une manifestation dont vous dites de toute façon c'est tellement petit comme info que ça ne va pas les intéresser. Il suffit que vous tombiez le jour où il n'y a pas d'actualité du tout, on va se jeter là-dessus, avec un bonheur incroyable. Qui fait que des fois.
Donc il faut tenter, quoi.
Ce qui pose parfois un problème, c'est que des fois on traite des sujets qui sont limites, quoi. C'est-à-dire que pas beaucoup d'intérêt, mais des fois on est tellement.
Je peux reposer une question?
Nous on dit être à poil, mais à poil complet, c'est pas quoi mettre. Alors là, c'était possible. Et alors le matin, en conférence de réaction, il y a des choix donc, qui se font. Bon, en fonction de la sensibilité des uns avec les autres, on en discute. Hein. Mais plus que finalement le choix du sujet, qui souvent est un sujet qui s'impose, c'est plutôt l'angle qui pose les sujets à discussion. Sous quel angle on le fait, vous comprenez ? Sous quel angle on va traiter les sujets pour être le plus pertinent possible ? Là, il y a souvent des discussions.
Je me permettrai de rebondir justement sur cette question. Et en dehors de la façon dont vous traitez un sujet, justement, comment le sujet parvient à arriver chez vous?
Comment est-ce qu'il parvient chez vous?
Qui sait quel sujet peut être traité, en fait? Parce que vos journalistes, je suppose qu'ils ne sont pas sur la route en train de glaner les informations à gauche et à droite. Ils sont un réseau d'informations.
Ben, nos sources, il y a d'abord tous les gens qui nous écrivent, qui envoient des communiqués, les associations, les uns et les autres, que ce soit les associations, loi 1901, que ce soit les partis politiques, les groupes politiques, les syndicats, tous ceux qui organisent quelque chose, qui nous envoient des communiqués. Nous, on a une chance, on fait partie des stations où on en reçoit beaucoup. Les gens, il y a des stations qui en reçoivent assez peu. Moi, je travaillais dans les stations, quand on avait trois communiqués ce matin, c'était le bout du monde, on arrive à avoir une pile, quoi. Donc, on a déjà un certain matériau. Ensuite, les agences de presse, l'agence France Presse. Par exemple, on a en permanence les informations, les dépêches qui tombent. On voit très bien s'il se passe quelque chose en Auvergne, dans notre territoire, dans notre zone de couverture. À ce moment-là, on peut réagir tout de suite. On a les pompiers, on a la police, on a le commissariat, on a tous ces gens-là, qu'on appelle quand même deux fois par jour. Ils peuvent aussi nous appeler pour nous dire. Alors les pompiers le font en général plus facilement que les policiers. Même pas trop, mais on finit toujours par savoir. Et puis, c'est de moins en moins vrai chez les jeunes journalistes. Mais moi, il y a 30 ans, je fais ce métier, j'ai incarné la presse. J'ai des réseaux. On a tous des réseaux. Enfin, dans les vieux années, on a tous des réseaux. Dans tous les milieux. Donc, on sait en général. Et ça agace parfois les gens de savoir qu'on sait une information qu'ils n'auraient pas voulu qu'on sache. Enfin, c'est vrai pour certains politiques en particulier. Il y a toujours quelqu'un qui traîne quelque part et qui de toute façon vous appelle pour vous dire. Aujourd'hui, imaginez aujourd'hui qu'on peut cacher une information, c'est vraiment une douce utopie. On peut la retenir, une demi-journée, une journée, deux jours, mais à un moment, de toute façon, ça finira par vous tomber dessus. Donc, c'est vrai que c'est toujours politique, ne vous habitez pas à quoi que ce soit, parce que si c'est pas aujourd'hui, si c'est pas demain, c'est dans un an, c'est dans 10 ans, c'est à la fin de votre mandat politique, que de toute façon, ça vous tombera dessus. À un moment, ça tombe, de toute façon. On finit toujours par tout ça. Il y a toujours des gens prêts à parler. Alors le problème, nous, c'est de vérifier, parce qu'on peut recevoir des coups de fil dans la journée en disant, voilà, il y a ci, il y a ça, on ne sait pas trop qui appelle, on ne sait pas s'il y a des arrière-pensées derrière ou pas, on ne sait pas. Alors je ne vais pas dire que c'est de la délation, c'est pas ça, hein. C'est pas du tout de la délation. C'est des gens qui appellent en disant, voilà, il se passe ceci à tel endroit. Et souvent, ils ont une vision très rapide, ils ont vu quelque chose rapidement comme ça. Et on va chercher un peu, on s'aperçoit que ce n'est pas du tout ce qu'ils ont cru. Que ce n'est pas aussi grave que ça, que c'est pas tout à fait ça, donc on vérifie quand même toujours après. Mais il y a tout ça. Et tout le monde en fait est source d'information. Tout le monde a des sources d'information. Vous avez des sources institutionnelles, mais n'importe quel téléspectateur, n'importe quel auditeur, n'importe quel consommateur d'information, n'importe quel citoyen est source d'information.
Et si tu as des lignes vides aussi qui vous permettent de faire un choix dans les propositions, si vous êtes contacté par des associations ou autres, est-ce qu'il y a une grille de priorité ou est-ce que c'est vraiment en jetant les dés que c'est...
Non, oui, bon, on voit bien que c'est... Oui, mais c'est très difficile à théoriser, évidemment qu'il y a des lignes de priorité. Si faut faire un sujet sur une petite association qui a une activité très particulière, qui ne concerne que quelques personnes, bien évidemment, ça ne va pas être, ça va pas être prioritaire, si vous voulez. Si c'est une grosse association, forcément qu'on va... c'est très difficile à expliquer. Comment vous dire ? Si par exemple c'est une association ou c'est un sujet qui concerne les personnes âgées, comme on sait que dans votre audience, il y en a beaucoup, on va forcément à des moments privilégiés parce qu'on sait que là, on va avoir le public pour. Quand on sait ce qu'on fait, on ne va pas forcément tout et n'importe quoi. Si c'est du foot, on fera du foot parce que ça va marcher. S'il faut choisir entre le foot et je ne sais quoi, forcément ça sera le foot. Oui, il y a ces choix-là qui entrent en ligne de compte. Mais ça, c'est à condition qu'au niveau de l'importance de l'événement lui-même, ce soit à égalité. Parce que si la petite association crée un événement qui nous semble, nous, important, parce que rarement vu, rarement fait, rarement filmé, etc., on ira plutôt vers la petite association parce que c'est plus sympa. Il ne faut pas oublier qu'on fait de l'image aussi, et que nous, on a besoin d'image. Si c'est pour aller filmer une assemblée générale dans une pièce, forcément, si c'est un gros parti politique, un gros syndicat qui le fait, on ira. On essaiera quand même de temps en temps à l'intérieur de trouver un pied pour sortir de la salle. Parce que filmer des gens en randonnion sur une estrade, alors nous, ça nous terrifie. Mais on ne peut pas le faire. Mais il arrive aussi qu'on privilégie les sujets parce que ce sont des sujets sources d'images. Des très belles images, des images rarement vues, rarement montrées. Bon, puis vous avez des sujets, quand vous n'avez pas vraiment d'actualité, vous avez des sujets à l'émotion, parce qu'on trouve que c'est sympa, parce que c'est... En essayant là aussi de ne pas en faire trop, parce qu'il ne faut pas forcément faire pleurer dans les chaumières, et que c'est pas forcément là qu'on gagne le plus, contrairement à ce qu'on croit. Mais vous dire pourquoi certains jours, tel sujet plutôt que tel autre, c'est aussi parce que vous avez un journaliste qui lui propose ce sujet, qui va être plus convaincant que les autres que son voisin. Qui sera très bien vous faire partager sa conviction et sa passion pour le sujet, et tout le monde va dire, bah, tiens, pourquoi pas. Ouais. Ça aussi, c'est important. Vous savez, il y a aussi des sujets, tout dépend des... Je disais tout à l'heure qu'il n'y a pas de journaliste spécialisé, mais tout dépend des passions de chacun. Nous, on n'a pas de journaliste passionné par la pétanque, il y a très peu de sujets sur la pétanque. Désolé, je ne trouve pas. À l'époque, Jean-Claude Pilière faisait beaucoup de sur la pétanque, mais Jean-Claude Pilière le voit de moins en moins. Donc, il y a de temps en temps un sujet sur la pétanque quand l'événement est important, mais par contre, on a deux journalistes qui sont passionnés par la pêche. Donc, les sujets pêche, mais des fois, on en fait café le soir. Des fois, il faut arrêter. Maintenant, pour aujourd'hui, parce que là, c'est suffisant. Moi, je me souviens, avant de travailler à Montpellier, il y avait deux journalistes qui étaient passionnés par les corridas. Il n'y avait pas un journaliste en corrida. Et moi, c'est arrivé d'ailleurs, je trouvais ça totalement aberrant. Vous comprenez ? Vous n'avez pas à un moment quelqu'un qui fait un peu la police. Mmh. Alors soit les autres qui réagissent en disant non, ça suffit, soit un rédacteur en chef qui dit non, ça part aujourd'hui, on fait un travail dans la corrida, on la pêche. Quoi. Alors finalement, l'ouverture de la pêche, on va la faire. Pas n'importe quoi faire du sujet pêche sur la semaine qui suit. Vous comprenez ? Vous avez des gens qui vont s'intéresser au rock. Voilà, bon, je suis douté de Laurent Pasturage qui s'intéresse plus à ça. Donc, de temps en temps, ils proposent un sujet rock. Bon. Voilà, vous avez François Martinez, et c'est la boxe. Bon, ce sera un sujet boxe, quand il y aura une actualité. Voilà, chacun propose aussi. Chacun propose.
Oui. Oui, monsieur,
et monsieur Appert.
Oui, on arrive à
faire. Vous avez indiqué que je vais être évoqué par une grande région géographique, donc de la région Auvergne, j'étais 85 environ, par exemple, d'ailleurs, ça va une belle petite scène. Vos financements, ils arrivent comment, votre budget comment par rapport par exemple, je suppose que dans notre région, ils sont 85, d'autres moins, c'est pas une
répartition. Moi, je voudrais le budget mathématique. Je voudrais le budget de Lyon, et puis je voudrais celui de Clermont, en sachant que je donne uniquement le budget qui est CAT, des techniques et rédactions. Et parce qu'il y a aussi, chez nous, des unités régionales de production, des URP, et la FET en France, qui fabriquent les téléfilms, qui fabriquent les jeux, comme question pour un champion, qui fabrique des statues comme ça, sont des unités régionales de production, sont ceux qui étaient en grève l'autre soir. Parce qu'on est en train de les réformer, qui n'ont pas envie de ça. Alors eux, on fournit par exemple les moyens techniques et les techniciens pour réaliser les téléfilms, par exemple, au Milan Brocante, c'est fabriqué avec financé Le budget de Ronald Poder, c'est 41 millions d'euros par an pour les programmes que vous voyez dans la journée et les infos, pour les comprendre l'ensemble. Et pour Clermont, le budget, c'est 7,5 millions d'euros pour une année. Vous avez à peu près 4,5 millions pour le BRI, le Bureau Régional d'Information, côté rédaction et journalisme, et 3 millions d'euros pour la technique, hors investissement matériel.
C'est que les finances publiques ou il y a une part de publicité qui vient de...
Il y a les deux. Il y a les deux, les finances publiques et il y a une part de la publicité aussi. Vous savez qu'on a un statut un peu bâtard et un peu ambigu. On a un actionnaire unique qui est l'État et on a quand même aussi les revenus de la publicité. Voilà.
Merci. Existe-t-il un lien entre les divers types de médias, c'est-à-dire la presse écrite, la radio et vous-même la télévision régionale? Ça, c'est une première question. Et je voulais vous demander, quelle sera dans l'avenir l'influence d'Internet pour l'information régionale? Car Internet prend une importance, bien sûr, assez grande, en particulier pour la presse écrite. Les journaux sont diffusés sur Internet et un certain nombre d'informations nous arrivent par ce biais-là.
Et notre site est diffusé sur Internet. Pendant une semaine, il reste sur Internet. Alors, sur la première question, la liaison, le lien avec les autres médias, il n'y a pas de lien officiel, si vous voulez. Les liens qui existent, c'est entre les journalistes de terrain qui se connaissent entre eux, c'est essentiellement ça. Même nous, on n'a pas de lien privilégié avec France Bleu, qui est pourtant une radio de la République, puisque France Bleu va faire ses émissions de soirée électorale avec Clermont Première et pas avec nous. Voilà, ce qui nous surprend un peu, parce qu'on pensait que service public, on pouvait collaborer, a priori non. Ça, c'est... Maintenant, c'est plus des liens de personne à personne. Moi, je connais, je connais bien quelques journalistes, vieux journalistes de la montagne, avec qui on échange des informations, avec qui on travaille. C'est en travaillant avec un journaliste de la montagne que j'ai sorti l'Intercolmé, par exemple, en 1998. On a sorti tous les deux. Des choses comme ça. Mais officiellement, de direction à direction, il n'y a pas vraiment de lien.
Est-ce que ce serait pas intéressant de créer un pôle d'information en général qui diffuse un futur
Oui, sauf que quand vous regardez par exemple la montagne et nous, c'est différent parce que on n'a pas la même surface. D'abord, eux, ils ont la place sur 30 pages, par exemple, de traiter l'information, y compris quartier par quartier, rue par rue. Nous, on ne peut pas, on a 22 minutes tous les soirs pour traiter l'information dans 4 départements, vous imaginez. On ne peut pas s'amuser à ça. Donc on n'a pas la même. On a la proximité pour un média de télévision. C'est une proximité que n'ont pas les chaînes nationales. Mais on n'a pas la proximité qu'à la montagne, par exemple, qui est bien plus important. Eux, ils ont tout un réseau de correspondants que nous, on n'a pas. Ce qui pose problème, parce que ces correspondants à eux, ils n'ont pas la carte de presse, par exemple. Ils n'ont pas ce petit bout, là, de la chambre. Elle pourrait. Ben, les gens qui nous appellent, c'est ça aussi. Sauf que dans la montagne, c'est ceux qui écrivent et qui envoient le papier. Nous, à un moment, il avait été question, il avait été imaginé qu'on puisse. Comme ça, les endroits stratégiques de la région, trouver quelques correspondants qu'on aurait quand même testés, dont on aurait reconnu la fiabilité, pour leur confier des petites caméras, vous savez, des petites caméras DV, qui permettent de filmer en numérique sans avoir des grosses machines sur le dos, là, qui font 25 kilos. Puis on sait, sinon, c'est pas. C'est la porte ouverte à. C'est pas quoi. Voilà, nous, avant de rentrer là-dedans, d'abord les images n'auraient pas été forcément bonnes, on ne veut pas diffuser des images qui ne sont pas quand même utilisées. On ne maîtrise pas tout. Nous, on ne peut pas faire confiance à quelqu'un qui nous donne une information si elle n'a pas été vérifiée par un journaliste titulaire d'une carte de presse. C'est notre garantie à nous. Quand l'AFP donne une information sur l'AFP, enfin la dépêche, on est sûr que c'est vérifié. Parce que c'est un journaliste qui l'a écrit. Mais sinon, moi, quelqu'un m'appelle. Il y a des gens comme ça qui vont appeler, mais quand il y a l'affaire, qui qui vous disent, voilà, ils ne disent même pas leur nom, ils habitent à tel endroit, ils passent ceci, ils passent cela. Du coup, c'est intéressant. Le problème, c'est comment vérifier. Je n'ai que lui pour le rappeler, lui dire, lui demander si c'est vrai, il va dire oui. Alors, je ne peux pas lui demander à lui de me faire le papier, alors que je ne suis pas sûr de ce qu'il me dit. Je ne suis pas sûr de lui. Bon. On n'a pas, on ne préfère pas ça. Et en plus, syndicalement, c'est un niet et un refus absolu chez nous. Alors, on va dire que c'est très corporatif, peut-être, mais c'est aussi une garantie de. On lit des fois. Même aller à la carte de prêt, on peut se tromper, donc on va éviter. Donc, sur les liens avec les autres, voilà, c'est à peu près tout ce que j'ai à dire. Hein. C'est des liens personnels de journaliste à journaliste. Mais il n'y a pas de lien officiel entre les directions. Pour la deuxième sur Internet, alors, il y a deux volets dans la réponse. Pour nous, ça change énormément de choses. Parce que vous savez que, en prenant par exemple l'antenne satellite, si vous enlevez l'antenne râteau pour ne garder que l'antenne à parabole, vous perdez les informations régionales, vous ne les avez plus. Sauf si vous avez Free FR par exemple, vous passez par des trucs comme ça, vous avez toutes les informations régionales de France et vous choisissez votre région. Ça existe, il y a des gens dans la région parisienne qui regardent les informations en sporadien tous les soirs. Mais donc les perdez, vous ne les avez pas. On n'a jamais dit aux gens, on n'a pas assez dit aux gens, des revendeurs en particulier, qu'il fallait garder les deux antennes râteau pour avoir des informations régionales. Donc, on a quand même perdu du monde comme ça, parce qu'il y a de plus en plus de gens qui sont passés au satellite. Alors, le satellite était bien dans les vallées du fond du Cantal, où on ne va pas, parce que c'est pas la même méthode. Donc, c'était très bien, parce que c'était France 3, vous n'avez pas la région. Et depuis, on a récupéré ces gens-là sur Internet. Par exemple, je me rends compte beaucoup qu'en ville, en particulier à Clermont-Ferrand, où à 7 heures, les gens sont rarement rentrés chez eux, le public qu'on a n'est pas vraiment un public urbain, c'est un public plutôt dans les zones rurales ou dans les petites villes. On se rend compte à Clermont-Ferrand que Clermont Soir est diffusé deux fois, le gros de son audience est de 7 heures, 27 heures moins 10. C'est là que les gens sont rentrés. Et que nous, il y a beaucoup de gens maintenant qui regardent le journal de la veille sur Internet. Parce que toutes les émissions que nous mettons à l'antenne sont mises en ligne pratiquement dans la soirée. Et qu'elles restent une semaine. Donc nous, ça nous a énormément. Nous, on a mis à ça. En plus, on est un des. Je crois qu'on est en Rhône-Alpes-Auvergne, mais le site Internet est un des publicités de toutes les France 3 de l'Hexagone. Maintenant, il y a un autre volet dans votre question qui est beaucoup plus général par rapport à la presse et Internet. C'est vrai qu'Internet permet de diffuser très vite de l'information. Le problème, c'est le contrôle de cette information. Parce que n'importe qui peut faire circuler n'importe quelle rumeur sur Internet, qui vérifie. Et je crois qu'on est déjà en train déjà de se rendre compte des limites de ce genre de choses. Parce qu'on a eu très peur au départ, on s'est dit, voilà, ça va être la catastrophe. Les gens vont dire n'importe quoi, forcément, tout le monde crie toujours au complot, on nous cache tout, par contre sur Internet on nous dit tout. C'est un
activité
absolument totale. Sur Internet, c'est tout n'importe quoi. Le vrai comme le faux. Très difficile de faire le tri sur Internet. C'est-à-dire que c'est vrai, que c'est faux. Donc, pour l'instant, ça sera plutôt mieux qu'on le pensait, parce qu'on avait très peur d'être débordé par le tout et le n'importe quoi. On a l'impression qu'il y a une espèce de sagesse populaire qui fait que. Bon, on se méfie un peu quand même de ce qu'on lit et qu'en tout cas ça se répercute beaucoup moins qu'on le croyait. Ça se rend public un peu moins. Apparemment, ils font des patrimoines de Ségolène Royal qui est parti sur Internet. Ça, c'est très. Là, c'est piégeux. C'est du temps qu'elle avait fait sur l'éducation nationale, il y a quelqu'un qui a filmé dans la salle, qui l'a mis sur Internet, il s'est planté. Il faut faire attention maintenant, vous comprenez, dès que vous dites quelque chose. Oui, les blogs, oui. Les blogs, ils l'ont vérifié quand même. Les blogs, oui. Bon, il n'y a pas. Mais c'est bien aussi, d'une certaine façon. Je vois à Clermont-Ferrand, par exemple, la droite clermontoise, qui est une existence depuis 60 ans, puisque depuis 60 ans, elle est dans l'opposition, et que depuis 60 ans, on ne l'entend pas, cette année, a sorti un blog. Et alors, on est tous abonnés dessus, évidemment. Et c'est la première fois qu'on a autant d'informations sur la droite à Clermont-Ferrand. On n'avait jamais su qu'il y avait tout ce monde-là, quoi. Vraiment, c'est. Là, pour nous, c'est bien, mais on les réfile, on les connaît en plus. Donc, on les connaît, on les rappelle, et on leur répond quand même, des fois. Ça, c'est bien, oui. Mais non, il y a des choses qui sont... Mais bien sûr qu'Internet est une source d'information pour tout le monde. Le problème, c'est qu'il ne faut pas forcément tout prendre au pied de la lettre. Et que avant de diffuser une information qu'on a vraiment trouvée sur Internet... C'est rare d'ailleurs dans les journaux, vous savez, les journaux qui signalent une information en citant aux sources Internet. C'est rare. C'est très rare. À part Ségolène Royal qui s'est piégé deux fois, c'est très rare.
Oui. Quel est le statut du personnel technicien?
Le statut du personnel technicien, ils sont intégrés, ils sont statutaires. Alors vous avez un certain nombre de CDD comme les journalistes, hein, vous avez des gens qui sont en CDD. Mais les techniciens, vous avez des CDI, CDD, vous avez les deux. Les CDD qui ont pour vocation évidemment à être intégrés un jour ou l'autre, au fur et à mesure des intégrations et des embauches. Mais les techniciens sont, on est tous, dans les 80 que vous avez cités, on est tous statutaires, on est tous en CDI, on est tous pas fonctionnaires mais assimilés. Oui, on est fonctionnaires, mais on n'est pas fonction publique. Hein. On n'est pas fonction publique.
Oui.
Oui, d'ailleurs, nous, la titularisation, pour nous, c'est un combat permanent des syndicats, chez nous. Hein. C'est vraiment... Nous, on a ce qu'on appelle des CDD historiques, c'est-à-dire des CDD qui font le tour dans les stations régionales, qui ont 1200 jours de CDD. On les appelle des CDD historiques, et pour nous, il est absolument important que ces gens soient intégrés le plus rapidement possible. Et en général, on fait tout pour qu'ils soient prioritaires au moment des intégrations, au moment des embauches.
Donc j'avais deux questions, mais enfin vous avez répondu en principe déjà, c'est de la fiabilité de l'information.
Là,
la fiabilité. Alors je voulais vous demander si vous privilégiez la rapidité ou la fiabilité, puisque bon, les fameux scoops que j'ai pas trop longtemps, ou qui sont démentis très faiblement, je parle pas pour moi, je parle en particulier. Est-ce que vous privilégiez la rapidité ou la fiabilité? Ça c'est la première question. Et deuxièmement, comme vous avez des temps très courts pour les séquences, si vous voulez passer quand même des reportages en les raccourcissant, est-ce que les images et le reportage, ça change pas un petit peu le sens dans ça là?
Bon, privilégier la rapidité ou la fiabilité, le problème ne se pose pas trop pour nous. Moi, c'est davantage en radio où il y a des informations tous les quarts d'heure, on prend la faute et en permanence. Il faut aller vite et donner l'info, mais la vérifier aussi. Nous, le journal du soir, on a en général le temps de vérifier l'information, sauf si elle tombe, ce qui arrive entre 6h30 et 7h. Alors là, il y a toujours quelqu'un qui est là pour tracer des coups de fil, pour vérifier. Il arrive qu'à 7h, on ne soit pas vérifié et qu'on dise non, on ne la donne pas. Si c'est vérifié à 7h, on la donne, même sans image, simplement l'information. Quand on a retrouvé, par exemple, bon, ça. C'est pas une information, elle est grave, mais elle n'est pas importante sur un plan médiatique et politique. Quand on a découvert le pêcheur de l'AFD qui s'est noyé, on a appris qu'il avait été retrouvé en plein milieu du jour. Et donc, une personne qui téléphone rapidement à la gendarmerie de Ghana, ou les bras, je ne sais plus laquelle des deux, pour avoir la confirmation. Donc, je l'ai donné en plein journal, parce qu'on avait eu la confirmation entre temps. On vérifie, on a le temps de vous vérifier. Puis on n'est pas de région, mais c'est pas de... Comment ? Non. Non, parce que vraiment là, c'est un piège monumental. C'est-à-dire, on reconnaît, nous, professionnellement, on reconnaît quand des journalistes sur les chaînes nationales se sont fait avoir. Vous écoutez le matin sur. Vous écoutez à 6h30 une information qui fait la une du journal. C'est le truc absolument. La une, la grosse info. Tout à coup, à 7h, ça y est plus. 8h, ça n'y est plus, ça n'en fait plus. Là, vous savez, ils se sont fait avoir, ils n'ont pas vérifié que c'est pas vrai.
Sur France Info,
ça arrive aussi à d'autres. Et là, c'est sûr qu'ils ont vérifié entre temps et que là, ils ont voulu aller trop vite, ils n'ont pas suffisamment vérifié. Parce qu'en général, quand on vérifie, c'est pas systématiquement, pas nous ici, parce que quand on téléphone chez les pompiers ou chez les flics, on sait très bien qui on a voulu filmer. En général, on vérifie à deux sources différentes, chaque information. Ils n'ont pas vérifié suffisamment. Si l'information a disparu dans la dernière qui suit, c'est qu'elle n'était pas bonne. Et qu'ils ont été trop vite. Ça, c'est le doux, ça, c'est le doux fantasme du complot, ça. Non, non, non. Non, 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 en général, non. Non. C'est... Non. J'en vois pas, là, comme ça. J'ai entendu des infos qui avaient disparu dans le sujet administrateur, mais c'était pas des infos importantes au point de d'être l'objet d'un veto. Et puis, très honnêtement, moi, j'ai jamais vu, enfin, à mon niveau, à Clermont, on n'est jamais venu vous dire ça, non, on ne traite pas. À l'époque de Persic, en 67, ça se faisait beaucoup, mais là, donc, depuis 81, c'est des choses qui ne se font pas, qui se font quand même pas autant qu'on en parle. Maintenant, attention, enfin, nous avons juste de répondre à la question, puis je reviens après tout à l'heure, parce que faut aussi faire attention d'où vient, quel média nos infos. Sur les sujets qui sont remontés, qui sont voilà, par le Paris ou par... Normalement, ils n'ont pas le droit d'être touchés, parce qu'on a le droit dessus, on a le droit de regard, on a le droit de la propriété intellectuelle, tout ce qu'on a fait. On touche des droits d'auteur, on a un droit d'auteur. Nous, chaque année, on touche des droits d'auteur sur tout ce qu'on a écrit, ce qu'on a réalisé, en plus des salaires. Et normalement, ils n'ont pas le droit. Bon, il se trouve que la plupart des gens ne disent rien. Moi, par exemple, je refuse. Je refuse qu'on retouche un hein, sujet. Sinon, je fais une colère monumentale et ils n'aiment pas ça. Donc, voilà, ça dépend des gens. Mais les petits jeunes qui rentrent, si vous voulez, ils sont bien contents qu'on passe un sujet à partir, même s'il a été complètement charcuté, soupçonné, défiguré, c'est pas important. Moi, j'aime pas. Parce qu'un sujet, quand il est pensé pour être comme ça, si vous enlevez. Donc, moi, j'aime pas ça. Pour revenir à ce que je vous disais, nous, on est service public. Et c'est notre garant de liberté. C'est la télé la plus libre aujourd'hui qui soit, c'est le service public. Parce qu'on n'appartient à aucun groupe. Vous savez, quand on téléphone, ça appartient à M. Bouygues, la plus grosse entreprise de travaux publics de la planète. Qui c'est les clients de M. Bouygues? C'est l'État, les collectivités locales. Eh oui, ça change tout. Europe 1 appartient à je ne sais quel groupe. M. Lagardère, RTL appartient à... Ils appartiennent tous à des grands groupes qui, à un moment, ont des intérêts liés avec l'État. Donc, forcément, à un moment, il y a, même si ça ne se voit pas, il y a des fois des petits... on piège un peu. Forcément. Si un jour M. Bouygues est mis avec la main, va faire des choses. Il y a de la chance que le patron Total aujourd'hui ne soit pas propriétaire d'une chaîne de télé ou de radio. Ils font quoi les journalistes? Alors que nous, on a cette tranquillité-là. On n'a pas d'argent privé. Ça paraît que c'est pas l'argent. Donc on a cette marge de manœuvre-là qui fait que moi j'ai jamais eu un politique qui nous a appelé pour nous dire ça non. Alors qu'évidemment. Comment? Sauf si on se censure d'avance. Oui, bien sûr. Ah, mais il y a des choses qu'on ne sait pas, oui. C'est dit, fais attention, parce que pour que ça déplaise, ça voudrait dire qu'on a vraiment tapé très fort. Tapé très fort sur un parti politique, ça voudrait dire que je prends parti, que je prends position, j'ai pas le droit. Donc c'est pas la censure, j'ai pas le droit. Moi j'ai pas le droit de faire un sujet, ou de faire 10 sujets pour ma sensibilité politique, et de cartonner sur... je suis obligé de recevoir tout le monde. Je suis obligé de parler à tout le monde, je suis obligé d'interviewer tout le monde. Dans 15 jours, je vais interviewer M. Louis de Condé. Je le ferai. Hein, je suis payé pour ça. Oui, c'est le représentant du Front National. Je le ferai. Mais j'ai pas le droit de cartonner plus. Enfin, je cartonnerai comme j'ai cartonné les autres. Je veux dire, c'est le droit de me poser des questions, mais qui est. On n'est pas là simplement pour l'intérieur à tout. On est là pour enfin, les brusquer un peu pour se les faire réagir. Enfin, c'est comme ça que c'est intéressant. Mais se censurer d'avance, ça pourrait être de la censure, mais pour nous, c'est pas de la censure, c'est de l'équilibre. C'est le respect simplement de l'équilibre. On n'a pas le droit, moi j'ai pas le droit en public de dire pour qui je veux. J'ai pas le droit. Donc, si je le dis, c'est arrivé à bien même. Voilà. Donc je ne dirai pas pour qui je veux. Et je ne dirai pas l'antenne, à plus forte raison. Bon, cela dit, il y a aussi, on sait très bien qu'on est dans l'ère du politiquement correct. Et que finalement, on a moins de liberté aujourd'hui qu'à 50 ans. Enfin, pour moi, en tout cas. c'est un avant-sujet sur le plan environnemental, parce que tout à coup, on a découvert, tout à fait par hasard, à côté de Brioude, dans un tout petit village, il y a trois maisons, où il y a un groupe qui fabrique des objets érotiques, et qui est le 5e fournisseur d'objets érotiques en France sur Internet. Il faut le faire. À côté de Brioude, on découvre ça par hasard. On se dit, c'est un avant-sujet. On va le faire. Alors, le confrère qu'on envoie, moi j'avais demandé à ce que ce soit dit, parce qu'il a suffisamment d'humour pour traiter le sujet, sans que ce soit graveleux, ça n'est pas bon, etc. Il revient avec un sujet, alors évidemment, le même sujet, ça commence avec une dame très sérieuse, une mine en poterie, qui fabrique des sacs en caoutchouc, et qui les moule et les démoule. On vous dit, c'est surréaliste, c'est surréaliste. Et en plus, le collègue qui fait le reportage m'appelle dans l'après-midi, il me dit « Elle fabriquerait du fromage de chèvre qu'elle aurait la belle paix. » C'est ça, je trouve ça le bizarre. Et alors, c'est le sujet. Le sujet commence comme ça. Le sujet, en plus, son commentaire était extrêmement drôle, extrêmement drôle. Moi, le sujet, j'ai tout mort de rire. Et ils attendaient que je présente le journal pour me le mettre dans les pages. Et finalement, on a réfléchi quand même deux minutes. Et je me dis, non, on ne peut pas. On ne peut pas, parce que là, on tombe sous la loi. C'est-à-dire que vous montez, alors, vous avez une dame, alors je ne vais pas vous montrer la photo, parce qu'on va garder les photos, c'est trop beau, avec un sac en caoutchouc, qui est à peu près comme ça, vous êtes comme ça, vous êtes avec un sac. Vous dites, non, l'homme s'est assassiné, là. Bon, vous avez une garde de famille qui appelle à la fin du journal en disant, et je raconte quoi à des gamins qui viennent de voir ça, comme c'est déjà arrivé. Et puis on tombe sous le coup de la loi. Vous savez que ce genre de photos, ce genre d'images, chez les libraires ou chez les magasins de la presse, il faut que ce soit pas visible à l'intérieur des revues et sur l'étagère du haut. C'est la loi, ça. Sinon, on mettait à 19h, plein image, plein écran. On se dit, bon, on se fait tuer. Donc, on a décidé de ne pas discuter du sujet. On a demandé au journaliste de le remonter autrement, de le changer un peu, il a remonté à ce moment-là, et il est passé sans problème. Mais voilà, ça, on est obligé de faire attention, forcément. Mais la censure, moi je dirais pas que c'est la censure, je crois que le problème aujourd'hui, en particulier chez les jeunes journalistes qui arrivent, parce que le vrai problème demain, c'est les jeunes journalistes aujourd'hui, qui sont formés aujourd'hui, c'est que non. Plus du tout de culture générale, et ils n'ont plus du tout de curiosité, et ils n'ont plus du tout la curiosité surtout de savoir où est-ce que ça coince. Quand quelqu'un vient vous dire quelque chose, quand on vient dire quelque chose devant un micro, devant une caméra de journaliste, c'est qu'en général il y a une arrière-pensée, tout le temps. Elle est où? Pourquoi il me dit ça maintenant? Pourquoi il le dit à moi? Pourquoi il le dit comme ça? C'est là où il faut chercher, et c'est là où la véritable information, c'est derrière ce qu'on dit. Et en général, ils n'ont pas cette tournure d'esprit-là, de fouiller un peu, vous voyez. Donc, ce sont souvent d'excellents relais des dossiers de presse que leur transmettent les attachés de presse. Ils savent très bien les résumer, ils savent très bien les resservir à l'antenne, mais ce n'est pas du journalisme pour moi. Et le problème de la démocratie de demain, c'est ce problème-là. Les journalistes se conforment aujourd'hui dans les écoles, ils se conforment à résumer des dossiers de presse fabriqués ailleurs. Et ça, je trouve ça extrêmement rare. Et le vrai problème, c'est là. Ils ne se censurent même pas. De toute façon, ils ne pensent même pas. De toute façon, c'est déjà tout prêt. On ne croit pas qu'ils se censureraient. Ils ont déjà un dossier de presse qui est déjà formaté. Comme eux sont formatés aussi, à l'arrivée, vous avez une information formatée. C'est ça le vrai danger. Donc l'autocensure, non, fais attention, on ne peut pas dire n'importe quoi. Quand on est vraiment pas sûr, on fait voir quelqu'un d'autre, on fait voir au rédacteur en chef qui à la fin donne d'accord ou pas de discuter du sujet. Mais l'autocensure, je crois que c'est plus un manque de curiosité ou un manque d'implication finalement. Je crois qu'être journaliste, c'est aussi mettre son grain de sel dans les choses. C'est quand un homme politique vous dit quelque chose, c'est de lui rappeler quand même qu'il y a des jours où il disait le contraire. Il faut le faire, c'est notre travail, d'avoir la mémoire de ce qui s'est dit, et puis de ne pas laisser dire n'importe qui, n'importe quoi, sous prétexte qu'on a un micro et qu'on va le bon, micro, comme on dit, on n'est pas là pour lui servir la soupe. Et malheureusement, dans les jeunes générations de journalistes, ils posent cette question. Tout ce qu'ils entendent, ils se servent de ça. Et à aucun moment, ils se disent, là, il y a un truc qui ne va pas, là, ce qu'il m'a dit, là, quand même. Vous voyez ce que je veux dire? De temps en temps, ils se disent,
d'abord. Hein.
Oui. Bonjour. Je vous le souhaite, c'est difficile d'échapper aux formateurs. Alors, pour les
formateurs. Donc, en parlant de formation, je voulais vous poser une question par rapport à la formation que vous avez suivie pour être journaliste, qui présente cette sujet. Puis, j'avais une question par rapport tout au métier de l'audiovisuel, pour savoir, donc, vous avez expliqué qu'on fait des journalistes, des techniciens de son, et donc, je voulais savoir s'il y avait une passerelle commune à tous ces métiers pour accéder au plateau de télé ou au travail de la télévision.
Alors, dans l'ordre, sur la formation, moi j'appartiens encore à l'ancienne génération, mais à 30 ans de métier, donc c'était l'école de journalisme, à l'époque il y avait peu. Il y avait Paris, il y avait Lille, il y a plusieurs activités à Bordeaux, c'est comme ça, c'était vraiment très peu. Aujourd'hui il y en a partout. Merci de vous plaît d'en rajouter la vie, c'est à la fin. Il y a déjà 80% de chômeurs dans ce métier, c'est pas la peine d'en rajouter. Je n'avais aucune message, mais quand on a appris qu'il y avait l'idée d'école de journalisme dans l'air, ça nous a fait bondir quand même. Donc, moi j'appartiens à cette ancienne école, c'est-à-dire qu'il suffisait que vous ayez une culture générale, un regard sur le monde, qui est un peu décalé, un peu, qui essaie toujours de comprendre comment ça marche et où ça ne marche pas, et puis surtout une écriture. Et à ce moment-là, on faisait sur la télé, sur la presse écrite, sur la radio, en télévision, on faisait des piges, puis on faisait un certain nombre de piges, on pouvait demander votre carte de presse, et puis on s'intégrait ou pas, voilà, rentrer comme ça. Ça, c'est la tradition dans le journalisme qui était du 19e siècle, ça a toujours été comme ça. Et puis aujourd'hui, ça a complètement changé. Aujourd'hui, si vous n'avez pas fait l'école, vous ne rentrez pas. Mais alors, pas du tout. Pas la peine de compter. Il faut lancer l'école, il faut lancer des stages, puisque nous on signe des conventions avec des écoles et qu'on reçoit des stagiaires pendant les mois d'été, hein, qui travaillent, qui remplacent les statutaires. Pour nous, c'est très bien, enfin, pour nos patrons, c'est très bien, ça leur évite d'embaucher les CDD. Ça leur coûte pas cher, mais on crée un peu ce système-là, mais c'est bien aussi parce que ça leur permet quand même de faire la première place. En plus, bon, il y a certains qui se révèlent être suffisamment bons et à qui on demande après de venir repiger chez nous. Puis au bout d'un moment, ils ont suffisamment d'heures de pige pour demander la carte de presse. Quoique, en général, la carte de presse, la demande est faite et sort des écoles. Parce que vous savez, aujourd'hui, c'est un serpent qui se mord la queue, la carte de presse. Pour demander la carte de presse, il faut déjà avoir travaillé. Pour travailler, il faut avoir la carte de presse. Vous savez comment on fait. Donc, la seule façon, c'est de passer par une école, parce que vous êtes stagiaire, là, vous avez une demande de carte de presse qui se fait automatiquement. Donc, c'est la. Aujourd'hui, c'est la seule façon de rentrer. J'allais dire malheureusement, parce que voilà, on passe peut-être à côté de grands bonhommes, de grandes bonnes femmes, de grandes plumes. Parce qu'il faut bien dire que année après année, le niveau ne monte pas. Voilà. Sur les techniciens, alors là, c'est pas tout à fait pareil, parce que là, il n'y a pas la carte de presse. Hein. Là, c'est avoir un diplôme ou pas. Nous, la plupart des techniciens qui travaillent à Clermont-Ferrand sont des gens qui ont fait des BTS, qui ont fait des formations diverses et variées dans l'audiovisuel, qui ont eu des diplômes, et puis qui ont demandé à venir travailler en CDD de temps en temps à France 3, qui ont sorti en stage, puis qui petit à petit de CDD sont devenus CDI. Mais là, c'est deux embauches, deux systèmes d'embauche tout à fait différents. Parce que l'on a besoin d'un peu la carte de presse aussi. C'est un peu plus facile pour un technicien de rentrer, si vous voulez. Voilà. Mais bon, après, il y a un parcours du combattant. Il faut avoir travaillé dans plusieurs stations. Il faut avoir. Pour les journalistes, par exemple, il faut avoir travaillé. Je sais plus combien de semaines, j'ai oublié. Mais il faut avoir travaillé au moins dans trois stations différentes, sur deux régions différentes, pendant un certain nombre de semaines. Je ne sais pas si c'est ça, je ne sais plus. Et après, vous êtes habilité à demander à être inscrit au planning de France 3. Alors, au planning de France 3, vous êtes sur un grand registre de tous les CDD qu'on peut envoyer un jour à Saint-Étienne, un jour à Bourg-en-Bresse, un jour à Toulon, un jour à Périgueux, un jour à Clermont, un jour à Lille, qui tourne et qui accumule des jours, comme ça, et au bout d'un certain nombre de jours, ils sont habilités quand il y a une embauche. À poser leur candidature et voire même être prioritaire pour certains.
Oui, des compléments ou non, ça va?
prétendre et ne vous découragez pas, parce que je pense qu'il y aura quand même des remplacements de générations.
Ah non, mais c'est vrai qu'il en faut.
Il y a de nouvelles générations de journalistes.
C'est vrai qu'il en faut. Mais les journalistes aujourd'hui, bon, ça passe forcément par une école. Et même en général, avant de faire l'école de journalisme, pratiquement tous font un ou deux ans d'autres choses avant. Alors, j'ai un peu Sciences Po pour la plupart, parce que c'est vraiment la meilleure culture générale de Sciences Po. Il n'y en a pas d'autres. Il y en a qui peuvent faire, je ne sais pas, de la psychologie, de l'histoire. L'histoire, c'est pas mal aussi, du droit, si on veut se spécialiser dans la justice. Voilà. Faire une quantité de choses, et après ils font l'école de journalisme sur 2 ou 3 ans.
Oui, oui. Attendez, monsieur
ne
va pas parler
à vous,
vous
voyez, j'en ai.
Ah non,
mais moi, je suis en vacances.
Bien, moi, c'est un vœu, puisqu'il y a une question qui sera peut-être pieux. Ce midi, j'ai pris la formation régionale, comme d'habitude, et dès que la pub est arrivée, je me suis précipité sur la télécommande, parce qu'on s'entendait plus dans le... Alors, est-ce qu'un jour, le niveau de son de la pub sera égal et, si possible, inférieur en décibels à ce qu'il est actuellement?
Alors, moi, je n'ai pas la réponse. J'ai le même problème que vous.
Pouvez-vous intervenir?
Je n'ai pas la réponse. Moi, non, pas du tout. Alors, je pense que ça dépend absolument pas de vous.
Bon, peut-être une deuxième question. Est-ce qu'on peut visiter la station de Clermont? Dans quelles conditions?
Alors, non, visiter, c'est oui et non. Oui, à condition que ce soit vraiment un tout petit groupe, 2-3 personnes maximum. Ou alors, si vous voulez faire un grand groupe, là, vous vous adressez au directeur technique. Il n'y a que lui qui peut prendre la décision. Sinon, si vous connaissez quelqu'un à la télé qui peut vous faire vous inviter à voir un journal, oui, mais c'est vraiment à une ou deux personnes. Après, pour le citer autrement, il faut s'adresser au directeur technique. Et j'ai bien peur que la réponse ne soit pas la positive.
Bon, je vais essayer, parce que je vous avais posé la question effectivement au Polydor d'Inter-Montferrand, et vous m'avez dit, ben, je vois, monsieur Dalmois. Donc, si, évidemment, on peut faire pour 2-3 personnes, mais le club audiovisuel.
Ah, si vous arrivez tous là, je vous dis.
Non, pas tous. Mais souvent, on essaie d'avoir des groupes de 10-12 personnes quand même pour.
En tout cas, vous n'arriverez pas à visiter la station au moment d'un journal à la Toulouse.
Non.
C'est trop perturbant.
Oui.
Oh, oui, bien sûr.
C'est trop perturbant. Mais ça dit, vous pouvez essayer. Hein. Je veux dire, vous savez, on est en plus. D'abord, ça perturbe. Ensuite, on est quand même. Nous, on est soumis à des pirates en permanence.
Ah oui.
Ça fait partie des sites
très
sensibles. Hein. On s'est renfermé, il faut manquer pas de blanche. Avec les cartes et les numéros de code, etc. C'est pour ça que ce n'est pas toujours très facile.
Est-ce que vous avez le souvenir d'une interview particulièrement difficile ou folklorique?
Oui. Oui, mais il y a plusieurs types d'interviews folkloriques. Soit parce que vous avez en face de vous des gens qui ne répondent pas, alors oui, alors. Faites une question qui dure 20 secondes et vous avez à la fin, oui. Alors après, je vous dis quand même, j'ai 26 minutes à faire. Ça m'est arrivé, oui. Ça m'est arrivé une fois, mais il y a très longtemps, mais c'était oui, il y a très longtemps, je débutais. J'avais un magazine qui durait 2 heures, on s'invitait 14 heures, en direct en plus. On ne fait plus de direct sur le journal. On faisait ça en direct complet, c'était sans filet pendant 2 heures. Et un jour, je reçois un invité, je ne sais plus sur quoi. Et je trouvais quand même avant l'émission qu'il était un peu bizarre. Et puis à un moment, il part pour aller aux toilettes et sa femme vient vers moi et me dit « Vous étonnez pas, il a la vie d'Alzheimer. » Ça a été un peu dur. Parce que là, je ne peux plus reculer, c'était actif. Bon. Et il a fallu cadrer quand même. Bon, ça, je m'en souviens. Maintenant, il y a des interviews. Oui, des interviews politiques, moi j'ai des souvenirs bizarres. Je parlais de Louis Condé tout à l'heure, c'est un monsieur Tatien, ça. Parce qu'il a cette technique qui consiste, même monsieur Hortefeux, c'est un peu pareil d'ailleurs. Une fois qu'il a la parole, il a jusqu'au bout, il n'a plus vous la laisser reprendre. Vous savez, c'est la technique que Georges Marchais, vous savez. Et ça, c'est un peu difficile, quoi. Puis alors, le bon, c'est-à-dire, vous posez des questions. Vous avez des gens aussi qui de la question que vous posez, la guise. Des fois, ça ne correspond pas du tout à la question. C'est pas tout à fait le nom. Vous avez des gens aussi, des fois on parle un petit peu avant, on dit voilà de quoi on va parler, etc. Alors, il y a des gens avec qui je le fais quand je sens que ce sont des pros qui vont être, qui ont bien compris qu'ils allaient falloir répéter ce qu'ils vont dire. Vous avez des gens, discuter un peu avant pour savoir un peu comment on va aborder les choses, etc. Puis l'interview commence et puis tout à coup, alors qu'avant l'interview, ils ont parlé de tout, ils ont tout raconté, c'était parfait, c'était magnifique. Vous commencez, vous posez la question, plus rien. Et à la fin, vous dites, mais pourquoi vous l'avez dit ? Ah ben, je vous l'avais dit avant. Oui, alors là, ça m'est arrivé plusieurs fois. Non, il y a des choses. Mais vous avez, par contre, à côté de ça, vous avez des pros extraordinaires. Je me souviens, au moment du référendum, par exemple, de la campagne électorale pour le référendum, Marie-Georges Buffet qui était invité sur le plateau, le journal commence, elle n'est pas là. Et dans l'oreillette, le sujet, juste avant elle, se termine. Et après, c'est elle. Et dans l'oreillette, on me dit, elle arrive, elle est à la porte. Et je commence à poser la première question à Marie-Georges Buffet, en fait, elle est encore dans le couloir. Et au moment où je finis de poser ma question, elle était assise à répondre. C'est hyper pro. Alors elle, vous pouvez y aller, c'est pour un journaliste, je ne parle pas de l'idée politique, hein, je parle de la technique. Là, c'est du bonheur. Ouais, ouais. Vraiment, elle, c'est... Elle s'est assise, elle a pas, on n'a pas vu qu'elle venait ce soir. Et alors, on fait des peurs, quand même. Parce qu'on fait durer un peu la question, parce qu'on sent que elle n'est pas là, elle n'est pas là, on en rajoute un peu, etc. On fait des claquettes, comme on dit. Mais, voilà, puis après, on a un moment de cette interview que j'ai oublié aussi.
Monsieur, bonjour.
Bonjour.
En matière d'archivage,
oui.
Plutôt bonjour, vous avez visité.
Oui.
D'abord, la période d'archivage, déjà. Est-ce que toutes ces archives vous appartiennent à vous, la région, ou elles dépendent de la région de Paris?
Non. Elles nous appartiennent pendant un certain nombre d'années. Et puis au bout de quelques années, elles sont récupérées par l'INA, l'Institut National de l'Audiovisuel, à Lyon. C'est Lyon qui les a. Les images plus anciennes. Et donc quand on veut récupérer ces images-là, on est obligé de passer par Lyon et demander à l'INA qui nous fait des copies et qui nous les fait passer immédiatement par réseau, par réseau. Et en général, c'est gratuit, pas toujours, ça dépend de la date, si elles sont trop anciennes, si ça demande des recherches, si c'est du film en plus, si c'est du film et il faut transférer sur de la vidéo ou sur du DVD, ça coûte de l'argent, on paye. Mais sinon, tout est conservé pendant un certain nombre d'années chez nous, et puis au bout d'un certain nombre d'années, ça part à Lyon, parce que nous, on n'a pas... dans toutes les stations, c'est pareil. Hein. Vous avez l'INA à Paris, l'Institut National de l'Audiovisuel à Paris, vous avez l'INA à Lyon. Bon, nous, on est à Lyon. Mais tout est gardé.
C'est parce que ça tombe dans le domaine public à ce moment-là
ou... Oui. Mais vous avez un site de l'INA, d'ailleurs, sur Internet, où vous pouvez consulter des milliards d'images, de vieilles images, d'anciennes images. C'est un truc absolument passionnant, l'INA. Tout ce qui a été fait, on va dire, de télévision ou de radio, c'est conservé et c'est à la disposition du public sur Internet. Mmh. Alors, pas tout en même temps, c'est comme dans les musées, on ne peut pas tout afficher. Il y a des réserves, mais ça tourne, ils font tourner les émissions. Et oui, c'est possible. L'INA, vous pouvez y aller.
Vous avez
l'adresse en tête, l'INA ? Non, parce que ça fait n'importe quel moteur de recherche, vous tapez l'INA, ça va vous trouver. Hein.
L'INA.fr, c'est vous.
C'est l'INA.fr, sur quoi ?
Oui, et un étudiant aussi de l'ESRC là-bas qui va nous. Et après, je pense
que... Oui, j'ai une question par rapport au reportage interview. Vous parliez tout à l'heure que vous préparez les interviews. Est-ce que dans tous les cas, vous les préparez avant d'interroger les
personnes? On les prépare avec elles, vous voulez dire?
Oui, parce que nous, dans la formation, vous nous avez des aides, l'un des meilleurs reportages à réaliser, en tout cas de la deuxième année. Et le professeur de l'université me dit que la meilleure chose, c'est justement de ne pas préparer, de poser des questions à la personne, parce que comme ça, on a vraiment la réponse réelle et sur les autres.
Alors, préparer, ça ne veut pas forcément dire répéter. C'est pas que poser forcément les questions. On peut discuter de quantité de choses et d'autres pour savoir un peu ce qu'il a à dire, à quel moment on va pouvoir faire un choix dans les sujets pour savoir comment on peut l'aborder. Il ne s'agit pas de dire, bon, voilà, je vais poser ça, je vais répondre ça, je vais dire ça, je vais dire ça. Non, ça ne se fout pas. C'est pas du tout le but. Bon, je fais jamais ça. D'abord, il s'agit de la préparer, même sans la lister. Aller chercher des informations, les documents, etc. Les dernières déclarations, on fait une émission, surtout en ce moment, on fait une interview politique, rencontrer des réponses. Parce qu'on peut vous dire n'importe quoi. Moins le journaliste est informé, plus l'invité pourra vous piéger. Vous pouvez lui raconter ce qu'il veut. Donc on ne répète pas vraiment avec lui, mais il est obligé quand même avant d'abord d'aborder un peu les grands thèmes, de dire voilà, sans lui dire les questions, mais d'aborder quand même les thèmes, enfin de lui signaler les thèmes qu'on va aborder. De le faire parler un peu, même si c'est par un autre biais, même si c'est pas vraiment la question qu'on va lui poser, pour qu'on sente un petit peu déjà dans quel état il est, dans quel état d'esprit il est, pour glaner peut-être une information par-ci, par-là, qui va peut-être vous servir. Même la plupart des choses qui nous servent dans les interviews, c'est des choses que vient de dire l'invité juste avant pendant le maquillage. Alors ça vous permet de rebondir, des choses comme ça. Mais évidemment qu'on ne répète pas, évidemment qu'on ne lui dit pas la question. Moi, les gens qui me disent, mais vous m'envoyez, vous faxez vos questions, on n'a pas question. Pas question du tout. Hors de question. En plus, quand vous faites une interview, c'est quelque chose d'interactif. Vous avez votre première question qui est prête, vous savez à peu près comment vous allez aborder le sujet. Vous avez des questions en réserve au cas où il y aurait des blancs. Mais il y a peut-être des questions auxquelles vous ne pensez pas et que les réponses de l'invité vont vous inspirer. Il faut aussi se laisser cette ouverture-là. Il ne faut pas se dire, moi j'ai connu comme ça des confrères qui partaient, qui n'étaient pas très sûrs, qui n'étaient pas vraiment journalistes dans l'âme, et qui partaient avec une liste de questions à poser. Alors, première question, on la pose. La personne répond. Elle répond puis elle développe un peu. Et le journaliste pose la deuxième question. Comme il n'a pas écouté la deuxième question, il a déjà répondu avant. Parce qu'en développant, il a répondu à la deuxième. C'est là où c'est mieux une interview, sur quel que soit le temps. C'est qu'il faut être en permanence à l'écoute, à l'affût, et ne rien perdre. Parce que si vous perdez quelque chose, pas laisser le faire, quoi. Mais c'est bien de discuter avant, quand même. On ne peut pas dire aux gens, ben voilà, si vous là, on commence. On a parlé un peu. Ne serait-ce que pour défendre l'atmosphère, des gens, un peu, des fois. Bon, voilà. Évidemment qu'il ne faut pas répéter. Il ne faut pas dire des questions à l'avance.
Une autre question,
J'en ai une deuxième.
Une deuxième.
Par rapport aux informations en fait, que vous présentez dans le journal régional de soir, est-ce que vous avez un ordre de priorité de programmation? Est-ce que vous passez des informations sur Clermont en premier, après vous venez sur
Montpellier? Non, parce que d'abord les informations sur Clermont, elles sont dans Clermont soir. Ça permet de dégager le journal. Donc, en général, dans des... Alors, si on regarde par exemple, qu'est-ce que moi je mettais en premier? Qu'est-ce que je mettais en premier? Je mettais probablement l'anneau maçonné en prison, parce que c'est quand même pas, c'est pas banal. Voilà, bon, je vais commencer par ça. Ensuite, il y a vous avez quoi? Vous avez plusieurs choses. Vous avez le choix. Après, soit vous passez dans les manifestations hôpitales, soit vous passez dans les OGM. C'est toujours un peu de la réaction épidermique. Vous avez l'éolienne de l'Allier. Donc, si vous mettez les OGM, vous mettrez l'éolienne de l'Allier à côté. Pour la foulée, parce que c'est quelque part, c'est des problèmes d'environnement qui se ressemblent, enfin, qui se ressemblent, mais ça a trait à l'environnement. Quoi. Donc, on essaie de pas trop les séparer. Vous finissez par le sport, parce qu'il n'y a pas autre chose pour finir, donc on va finir par ça. Quand on commence par ça, c'est qu'on n'a rien pour commencer. ou alors le sport, alors le festival du polar, plutôt. On peut finir par le festival du polar à la fin, mais par le sport juste avant. Moi, je ferais ça, je commence. C'est comme ça, mais souvent, ça prête. Ça donne lieu à la discussion l'après-midi. Parce qu'on n'a pas la même sensibilité. On essaie en général de ne pas commencer par un truc trop institutionnel. Ainsi, même une campagne présidentielle, on n'essaiera pas trop de commencer avec ça. Enfin, parce que là, tout de suite, ça passe un peu quand même. Donc, si on a autre chose pour commencer, quelque chose d'un peu plus. Soit important par l'événement, soit parce qu'il y a l'image, soit parce qu'il y a l'émotion, parce qu'il y a quelque chose, soit parce qu'il y a une belle histoire, parce que ça dépend des jours. En général, même si on en discute, on finit assez rapidement par tomber d'accord. Au bout d'un moment, ça s'impose, c'est l'esprit qui se fonde mécaniquement. Il faut voir aussi la progression. On part de quoi, on passe par quoi, on arrive à quoi, avec des relances, avec des remontées d'attention, avec des. Si vous mettez un sujet très institutionnel sur je ne sais pas quoi, sur le budget du Conseil général, bon, qui est important, mais malheureusement, ce n'est pas passionnant, en fait, c'est pas, en image, ce n'est pas passionnant. Donc, si vous, derrière, on peut mettre un sujet sans tomber forcément dans la gaudriole ou dans le léger, dans le fameux journal, c'est mal placé, mais un sujet qui relance l'attention du spectateur, on le mettra là. Et c'est pour. Ce qu'il faut, c'est que. Il faut penser quand on construit un journal, c'est que chaque sujet intéresse forcément une catégorie de gens, donc il a sa place, il a le droit d'être là, mais qu'il faut qu'on intéresse, qu'on garde tout le monde du début à la fin. Il ne faut pas simplement que la personne qui a vu le sujet qui l'intéresse, dise bon ben non, ça ne m'intéresse plus, pas, je change de chaîne. Il faut qu'aller jusqu'à la fin, il faut garder les gens jusqu'au bout du journal. D'où la place et les rythmes. Et les rythmes. Puisqu'il y en a un sujet qui est. Même un sujet culture, ou je ne sais pas quoi, qu'on estime pas très bon, pas très. Pas passionnant, passionnant, on le met vraiment là. C'est tranquille.
Oui. Deux dernières questions, on va encore. Oui.
Une petite dernière. Vous expliquez que vous pouvez parler aussi des transitions entre les différents reportages, et en moyenne, ça vous demande combien de temps de travail de préparer un journal pour l'histoire.
D'écrire un journal,
voilà.
Ça demande. Écoutez, il y a déjà des choses qui sont écrites depuis le matin, il y a quelques heures en général. Mais on commence donc la conférence de rédaction à 15h30. Alors le temps de trouver, de faire l'ordre, de faire le choix final, de trouver les titres. On trouve les titres, il faut chercher les titres aussi. En général, je ne commence jamais à écrire avant 4h15, 16h15. Et en général, j'ai fini à 18h15. À 2h. Mais ouais, c'est bien 2h. Mais ces 2h, il ne faut pas venir me marcher sur les pieds pendant 2h. Il ne faut pas venir me demander quoi que ce soit.
Voilà, on ne téléphone pas parce que.
Non, parce que le téléphone, c'est uniquement les journalistes qui ont fait les reportages.
C'est normal.
Qui ont le droit de m'appeler. Sinon, moi, le standard ne prend plus les appels. Moi, je ne prends plus les appels à partir de 4h15 du tout. Parce que c'est très tendu. C'est très tendu parce que j'ai un temps donné dans lequel il faut que je rentre tout ce que j'ai à dire. Que je calibre. En plus, ça varie souvent en permanence entre 16h15 et 18h15 parce qu'il y a des sujets qui, au final, s'avèrent plus courts, d'autres s'avèrent plus longs. Donc, mon temps de plateau à moi change en permanence. Donc, en permanence, j'enlève une phrase, je rajoute une phrase, je réécris. Et puis, écrire un lancement, moi j'adore ça, c'est la partie du journal que je préfère, donc, le moment d'écriture, parce que c'est là où, c'est dans l'écriture, c'est la façon dont c'est écrit qui fait que vous allez retenir l'attention ou pas des gens. Il faut faire attention à la première phrase. Qu'est-ce qu'on dit? Si je commence par dire que aujourd'hui à telle heure, à tel endroit, telle association a organisé telle manifestation, là, tout le monde s'en va. On se barre, c'est fini. On ne peut plus retrouver la phrase qui accroche et puis donner quand même le minimum d'informations qui va permettre de comprendre le sujet qui suit. Parce que c'est parti. Le lancement fait partie du sujet. C'est évident. Et donc il faut être précis, il faut être court, donner le maximum d'informations dans le minimum de mots, si possible trouver la formule qui accroche, qui retient, qui fait qu'on passe pas à autre chose, donner envie de voir ce qu'il a su. C'est un vrai, moi j'adore ça, c'est la partie de grand plaisir de la journée, c'était 2 heures là. Après, une fois que c'est fait, aller le faire en plateau, c'est sympa, mais ça, pour moi ça perd un peu de souvent le charme.
Depuis 1974, nous avons passé de 3 chaînes à une dizaine de chaînes en France. À quoi ressemblera la télévision nationale de futur?
Oh, alors là, c'est le savez. Moi, je ne suis plus d'accord. Alors, vous savez, non, mais non, je ne sais pas. Je ne sais pas parce qu'il y a des projets plein des cartons et puis il y a des résistances plein des têtes. À une époque, il y avait la TNT qui nous avait laissé espérer énormément de choses. C'est-à-dire qu'on s'était dit avec la TNT, d'abord on pourra avoir absolument toutes les informations de toutes les stations régionales sur tout le territoire, on choisira. On n'aura qu'à choisir son canal et on aura sa région. Et on était parti à ce moment-là sur une réflexion, c'était des projets, de 17 ou 18 heures d'antenne quotidienne en région. C'est-à-dire que c'était Lyon qui aurait fabriqué, avec l'aide de Clermont, 17 à 18 heures de programme tous les jours. Donc là, honnêtement, j'en sais rien. Là, en ce moment, il y a un projet, par exemple, de faire une grève de ces jours-ci, c'est l'URP, les techniciens qui sont en grève, les journalistes le sont par solidarité, ce sont les techniciens qui sont en grève, parce qu'on est en train de réformer, enfin, on veut réformer tout le système de production, de fabrication. Vous savez, les téléfilms, les émissions de jeux, divertissement, etc. Le réformer, ça veut dire l'externaliser, le confier à la société privée à qui on va acheter. Pas très d'accord. Donc, en plus, il y a depuis longtemps cette idée qui court qu'il va falloir privatiser une des deux chaînes, ou la deux ou la trois. Nous, c'est notre fantasme de faire permanent, c'est la privatisation. Mais, alors, des fois, on dit, nous, à France 3, on dit très bien privatiser France 2 parce que ça ressemble tellement à TF1 que finalement, c'est parfait. On leur en fait cadeau. Alors que nous, on a quand même une spécificité quand même. On a les régions, on a quand même une information régionale. Avec France 3, c'est quand même 3000 journalistes, c'est la plus grosse rédaction d'Europe. C'est-à-dire, c'est pas un truc que vous bradez comme ça du jour au lendemain. La plus grosse rédaction de journalistes d'Europe, c'est France 3. Donc, on a quand même un poids, on a quand même une raison d'exister, on a un réseau. Nous, on peut vendre les images à n'importe qui, parce qu'il faut le temps sur le terrain. Donc, si demain les volcans de verre sont en pleine éruption, les images, nous, on les fera et on les vendra au reste du monde. Donc, on est là en permanence. Donc, on pense que c'est peut-être pas nous qu'il faut privatiser en premier. Quoi. Alors, a priori, de temps en temps, le danger s'écarte, de temps en temps, le danger revient. Voilà, on se fait peur, nous aussi, des fois. Donc, on en rajoute un peu. Donc, je ne peux pas vous dire, ça va tomber. Je ne peux pas vous dire, mais à mon avis, si je prends un risque, mais avec aucune certitude, c'est que dans la mesure où la mode est au désengagement de l'État dans tous les domaines, je ne vois pas pourquoi, à terme, l'État ne se désengagerait pas aussi de la télévision, et pourquoi les stations régionales ne deviendraient pas, finalement, des stations avec un financement un peu double, à la fois public et privé. Pourquoi ne pas imaginer un transport vert, l'État Michelin. Vous voyez, ce genre de choses. Pourquoi pas?
Pour l'indépendance.
Alors, le problème, c'est qu'au niveau des. Alors, Michelin, ça va, on revient avec Michelin. Alors, je ne suis pas sûr que Michelin en ait envie. Mais ça coûte très cher, la télévision. Ça coûte très cher. Et Clermont Première est en train de s'en rendre compte. Donc, il faut trouver en face des partenaires qui ont. Financièrement, les reins très solides. Très solides, vous voyez déjà, reins Clermont-Ferrand, de toute façon, 4 départements, 7,5 millions d'euros hors investissement. Le budget par an, c'est quand même beaucoup. 7 millions d'euros, ça fait 500 millions de francs, hein, chaque année. Non. Comment ?
Arte,
c'est public, mais c'est franco-allemand. C'est un consortium franco-allemand, c'est public. C'est pas le groupe français des siens. Il y a été question de le mettre dedans, mais il y a eu une espèce de levée de bouclier qui est tout à fait compréhensible, dans la mesure où c'est franco-allemand, ça ne peut pas être France Télévisions, je veux dire. La partie allemande de l'Arte.
Je reviens un petit peu en arrière sur la conférence de rédaction de l'après-midi, là. Et est-ce que vous pouvez nous préciser quel est le rôle, sans doute prédominant, du journaliste présentateur par rapport à ses confrères?
Ça dépend du journaliste présentateur.
C'est pour ça qu'on dit c'est le journal de Poivre ou d'un autre.
Ça dépend du présentateur. Si moi j'ai une grande gueule, alors forcément je l'ouvre. Donc je décide beaucoup. Et comme j'ai des rédacteurs en chef qui sont plus jeunes que moi, en général on m'écoute. Bon, pas toujours, mais on m'écoute quand même. Bon, maintenant vous avez d'autres qui font ce qu'on leur dit. Mais ça ne veut pas dire que c'est mauvais, hein, c'est pas tout ce que je dis. Ça veut dire que c'est peut-être moins personnalisé.
En cas de conflit, qui est le dernier mot? C'est le rédacteur.
Normalement, c'est le rédacteur en chef, mais si je m'énerve, ça peut être moi. Parce que si je dis que je ne lance pas de sujet, parce que je ne veux pas de sujet, ça m'arrive rarement. Il faut vraiment que ce soit.
Mais ça peut aller jusque-là.
Ah oui, ça m'est arrivé. Ça m'est arrivé de refuser de. Bon, c'est un collègue qui l'a lancé la semaine d'après. Et moi, c'est pas moi.
Oui, donc le journaliste présentateur a une forte empreinte quand même sur le journal qui est à l'écran.
Vous savez, c'est une affaire aussi de personnalité, hein, le journaliste, parce que vous avez des personnalités fortes, vous avez des qui sont moins, vous avez matin, on arrive, on a envie de... On n'est pas bien allumé. Donc on s'énerve d'emblée. Tout de suite. Avant qu'il y ait un coup dans la bouche, on commence à s'énerver. Bon, ça arrive. Il y a des matins où on est complètement arrêté. Et il faut se passer n'importe quoi, on ne réagit pas. Donc il faudrait réagir certains matins, ne pas laisser passer certaines choses. Il y a des matins où on est arrêté. Puis tout dépend qui vous avez autour de la table. Si vous avez une grosse majorité de journalistes statutaires, en général, c'est plus facile de monter au créneau pour refuser quelque chose. Si vous êtes le seul statutaire entouré de 15 CDD, vous savez très bien que les 15 CDD ne vont pas suivre. Vous allez vous retrouver tout seul, un clash avec le rédacteur en chef tout seul. Donc, c'est des jeux de pouvoir, des jeux de rôle qui se passent dans toute société humaine, dans celle-là comme dans les autres. Et tout dépend de qui est là, tout dépend de l'état de chacun, de l'état d'humeur en ce moment. En général, on essaie quand même d'être un peu constant parce qu'on a un produit à donner à la fin de la journée et qu'il ne faudrait pas que du jour au lendemain, il y ait une différence terrible simplement en fonction des humeurs de chacun. C'est quand même que tous les jours, le journal ressemble à quelque chose. Donc, au bout d'un moment, on revient à la raison. Au bout d'un moment, on finit par glisser tout ça. Mais c'est vrai que ça peut être un métier d'engueulade. Hein.
Bon, une dernière question, puis après, ben, je pense qu'on pourra poursuivre la discussion avec Jean-Paul Vincent autour d'un verre. Hein, je ferai quelques annonces avant, et puis on se retrouvera devant la salle. Dernière question.
Oui, depuis que je regarde le journal télévisé, je me suis toujours posé la question pourquoi le journal régional, qui pourtant devrait avoir pour vocation de parler aussi de la politique de la région, en parle si rarement.
Alors écoutez, moi c'est une question que j'ai posée la semaine dernière en rédaction parce que je trouvais que dans le cadre de la campagne présidentielle, que autant on faisait tous les sujets sur les grands ténors parisiens qui descendaient, ce qui est normal qu'on les fasse, mais qu'on ne savait toujours pas ce qui se passait au niveau purement local avec les personnalités locales. Par exemple, le Puy-de-Dôme en sait tous les ténors socialistes sont fabuliens. Et je me disais, bon, pas beaucoup au créneau, pour soutenir Ségolène Royal, on pourrait quand même aller leur poser la question. Hein, parce qu'on ne les trouve pas très présents. Bon, je crois qu'on va le faire, bon, ça a été fait peut-être la semaine aussi en vacances. Bon. Maintenant, en dehors de ces contextes d'élection présidentielle, là, ça va devenir par contre moins vrai au moment des législatives, tous les précédents, vous allez l'entendre, parce que là, c'est des candidats ici. Donc là, on va y voir. En dehors de ça, c'est vrai que. Mais je crois que ça tient aussi à toutes les régions et en particulier à celle-ci, c'est que on a quand même le sentiment qu'une fois que les gens ont été élus, aussi bien les élus que les électeurs, considèrent que c'est un chèque en blanc qui va s'en débrouiller. Vous faites ce que vous voulez, je ne veux plus vous voir et vous entendre pendant 5 ans. Je crois que les gens s'en désintéressent aussi beaucoup. C'est-à-dire que c'est là où la démocratie aussi quelque part un peu en danger, c'était pas cette espèce de état de veille sur des gens qu'on a élus et à leur demander en permanence des comptes parce qu'ils ont été élus pour ça. Et je crois que, alors nous on fait systématiquement, mais là aussi c'est parce que on a la chance d'avoir un rédacteur en chef qui est de mon avis et qui y tient, c'est-à-dire les assemblées de conseil régional, quand même, conseils régionaux, généraux, les quatre. C'est intéressant d'aller voir un peu les budgets. Mais on sait que c'est pas dans un journal, on fera pas 3 minutes parce qu'on sait qu'on perd tout le monde. Hein, parce que les gens ne s'intéressent pas.
D'accord.
Ne s'intéressent pas. Dire ce que.
Et
le
savoir-faire de la présentation.
Oui, oui, mais on sait quand même, parce que c'est quand même notre boulot de faire. Mais en dehors la politique régionale, en dehors de ces assemblées, sessions de conseils régionaux généraux, vous savez, il ne se passe pas grand-chose. Ou alors ce qui se passe, c'est bon, il y a des choses qu'on sait qu'on ne peut pas dire, on ne peut pas tout dire non plus, parce que on ne peut pas tout dire. Je ne sais pas de la censure, c'est qu'il faut avoir aussi. C'est ça aussi qu'on parlait de censure tout à l'heure. Il y a des choses qu'on sait, parce qu'on a des réseaux, par contre, quand on vit depuis des décennies dans une région, quand on sait comment ça fonctionne, qui fait quoi, comment est relié, qui est relié à qui. On apprend des choses. Le problème, c'est qu'il faut avoir légalement le droit de le dire. Il y a des choses que je sais que je ne dirai jamais parce que légalement, je n'ai pas le droit. Parce qu'il y a des lois de la presse, quand même. trouver la personne politique ou autre qui va parler devant le micro, qui va accuser, qui va contester. S'il ne le fait pas, c'est pas à moi de le faire. Ou alors il faut que moi j'arrive avec un dossier en béton et avec les preuves. Moi j'ai vu, vous savez, on s'en entend, on connaît suffisamment de gens pour faire des rapports, lire les choses, voilà, et on se dit, mon Dieu, si on raconte ça, on fait tout sauter, mais on peut tout faire. J'ai pas le droit. Mais c'est partout dans toutes les régions. Partout. J'ai pas le droit, j'ai pas le droit. Si je le fais, demain je suis au tribunal, je suis condamné. Mon rédacteur en chef avec moi, mon directeur général avec moi, et tout le monde. Donc, il y a du lourd. Ah, c'est un statut très particulier. D'abord, dans les preuves. De tout ce qui est d'abord dans les preuves de ce qu'ils annoncent. Parce que, vous savez, le canard enchaîné, le plus gros fournisseur d'informations du canard enchaîné, c'est les politiques eux-mêmes. C'est les ministères, c'est les machines à. C'est les télécopies et les machines à taxer, vous savez. Ça, très bien. Donc, ils ont des preuves. Eux, ils les ont. Mais on les enlève. Et en général, personne ne s'amusera à attaquer le canard enchaîné, ça fait quand même arriver quelques fois, parce qu'on sait très bien que le canard enchaîné s'en tirera les preuves. C'est un statut très particulier, le canard enchaîné. Mais ça dit, ils respectent la loi. Hein. Ils sont très dans le cadre de la loi, ils sont inattaquables. Simplement, ils ont des sources d'informations que nous, on n'a pas forcément. Les gens dans les ministères préfèrent envoyer leurs informations au canard enchaîné qu'à France 3. Voilà. Parce que, aussi, parce que, vous savez, dans les télévisions même publiques, les responsables de chaîne ou les directeurs généraux ou les rédacteurs en chef, c'est quand même des postes quand même politiques. Aussi. Donc, nous, ça, à la base, ça va, on risque rien. Ça a dû m'arriver, des trucs qu'on n'arrive pas à sortir. Mais ça m'est rarement arrivé, mais ça a dû m'arriver une fois. C'était est-ce qu'il peut nous arriver à nous de fournir de l'information au canard enchaîné? Moi, ça m'est ça m'est arrivé une fois, je crois que c'est rare. Quand on sent qu'on ne peut pas sortir un truc. Mais il faut être. Vous savez, c'est, sortir une information, c'est, je vous jure que c'est pas facile. Moi, j'ai sorti l'affaire Colmé en 98. Ça m'a valu 6 mois de nuit blanche. Ça m'a valu des menaces de mort. C'est 6 mois où je me suis demandé qu'est-ce que je fais. Est-ce que j'ai raison de faire est-ce que finalement, quelque part, ce type-là n'a pas des circonstances atténuantes? Est-ce qu'il n'y a pas des explications à son espèce de délire et à ses dérapages? Je ne savais pas du tout. Et puis, en juin 98, il y a eu une fenêtre là, qui m'a permis, sur le plan légal, de sortir l'information. Et là, j'ai senti que tout le milieu médical était à mon toit, n'attendait que ça pour régler ses comptes. Je me suis dit, je ne peux pas le faire. Donc, j'ai fait après, mais en septembre. Moi, je ne vous raconte pas tout parce que je ne peux pas tout raconter. Mais il a fallu que j'attende. Moi, j'ai attendu pratiquement un an. D'avoir la certitude que légalement j'étais inattaquable. Que légalement, et j'avais toutes les preuves en main. Moi j'ai un dossier Colmé qui est comme ça. Et j'avais toutes les preuves en main et d'attendre d'être inattaquable il m'a fallu un an. Mm-hmm. Et je vous jure que j'ai passé la pire année de ma vie. Comment ? Oui, mais je veux dire que à l'époque, tous les experts n'étaient pas d'accord sur les erreurs chirurgicales, sur les erreurs diagnostiques. Tout le monde n'était pas d'accord. Et moi, les premiers malades que j'ai vus, je me disais, s'ils avaient été opérés par un autre, peut-être qu'ils seraient dans le même état, je ne sais pas. Peut-être. C'est qu'après. J'ai quand même, au bout d'un moment, j'en ai vu quelques-uns qui étaient dans des états absolument catastrophiques. Et je les ai pratiquement tous vus, moi, à ce moment-là. Et au bout d'un moment, moi, j'ai craqué. Parce que quand j'ai vu Oui, donc on n'a pas tout dit en plus sur cette. On n'a pas tout dit, on n'a pas tout dit. On ne produira jamais tout. Et puis le vrai procès, là, que ça sert, c'est le procès du milieu médical qui est à Montreux, qui a toujours su émerger derrière. Voilà. Donc c'est ça, et ça, je sais, parce que je sais comment j'ai appris, comment je suis tombé sur l'affaire. Donc, le vrai procès, il est là.
Voilà.
Mais pour vous dire qu'on ne fait pas n'importe quoi, et que c'est pas forcément. Il ne suffit pas de se dire, oh là là, la presse, c'est le quatrième pouvoir, je suis Zorro, je suis Monsieur Propre, je lève plus blanc, j'ai une info, je sors dans la rue, je la donne. C'est pas si facile. Là, c'est la seule façon pour se faire ramasser, se faire. Et se passer au tribunal, se faire condamner, en toute conformité à la loi. Hein. C'est bien fait. Heureusement d'ailleurs, parce que sinon, tout le monde pourrait. Heureusement, et puis malheureusement, pas d'un côté, parce que des fois, on est bien obligé.
Bon, ben, je crois qu'on pourrait écouter Jean-Paul Lasson encore pendant longtemps. Oui, je demande de l'applaudir rapidement. Je pense que l'avoir écouté, c'était vraiment tout à fait passionnant. On pourrait l'écouter encore longtemps, mais ce qu'on va faire, je veux dire, de trois mots, mais ensuite, on va pouvoir continuer à bavarder avec M. Vincent autour d'un verre. Probablement, madame, peut-être venir avec moi, là. Voilà, on pourrait vous offrir un livre avec Vichy Vatali et avec Paul Mardi. C'est un ouvrage Vichy Vatali en allemand, et vous pourrez, là, regarder notre agglomération. Donc on est très heureux de vous l'offrir.
Merci beaucoup.
Et vous garderez comme ça un souvenir de votre passage au Pôle Lardy, à Vichy, au club de Vichy. En tout cas, ce que je veux dire, c'est qu'on gardera vraiment un souvenir de votre venue, que c'est pour moi tant fort, de notre année consacrée à la télévision. Je voudrais dire deux mots rapidement, je ne veux pas abuser, et dimanche après-midi, nos amis Sylvain Deltran, FDC, reçoivent à la Vessie Francis Perrin, donc on n'est pas très loin de la télévision, on est même au cœur de la télévision, puisqu'il a laissé une opérette mettant en rang avec beaucoup de gens de la télévision. Je voudrais dire que, pendant ça, Carrefour Position, le 2 avril, ils reçoivent Nemona Interman. Nemona Interman, donc grand reporter à France 3, à 20h30 le lundi 2 avril, je pense que ça va être intéressant. Et puis, vous dire un mot aussi du colloque de Radio Ici avec l'Université indépendante, le Club Cinéma de Vichy, le Club audiovisuel, c'est le colloque sur le rire, le rire dans tous les éclats, où là aussi on aura l'occasion de parler de télévision et de bien d'autres choses. Ça sera le vendredi après-midi, le 30 mars et le 31, le samedi 31. Voilà, je ne veux pas en dire plus, je ne veux pas abuser. En tout cas, merci encore de votre venue, merci de tout ce que vous avez dit, je vous propose de réapplaudir M. Vincent et puis de vous voir avec sans femme. Merci beaucoup.